micro-ondes.
Une émission qui vous tient à contre-courant.
Tous les premiers dimanches du mois. On vous parle de sujets brûlants.
Mais c'est pas de réchauffer.
Une émission qui s'attaque au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales. À l'intérieur, pas de la lutte, que de la lutte.
De midi à 14h.
Sur News FM 101.2.
Ok, on est donc sur News FM 101.2 et c'est l'émission Micro-ondes qui prend les ondes et on est pas mal dans le studio aujourd'hui. Voilà, des petites voix qui veulent nous dire bonjour peut-être.
Bonjour.
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 Du coup, vous voyez, encore pas mal d'invités. Micro-ondes, du coup, une émission pour s'attaquer au racisme, aux frontières et aux injustices sociales. On est ensemble sur News FM de midi à 14h. Tout de suite, un numéro, puisque cette émission se veut participative. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des compléments d'infos, des événements à nous donner sur l'agenda, vous pouvez nous appeler en direct au 04 56 14 23 54 ou réagir sur le Facebook Micro-ondes News FM. Voilà, deux slogans du coup à News FM. D'abord, celle de prendre le micro et prendre les ondes pour donner la parole justement aux premiers concernés et leur donner l'occasion de dire ce qu'on ne veut pas entendre d'eux. Et aujourd'hui, ça va pas déroger à la règle puisqu'on aura du coup deux personnes dans un premier temps qui vont revenir sur un film qui justement a donné la parole aux premiers concernés. Et puis, on aura ensuite du coup Sorina qui viendra aussi rebondir sur... Sorina, rappelez-vous, était avec nous le mois dernier et nous avait parlé de la situation du campement Flaubert qui avait brûlé. On est ici un mois après pour faire le point avec elle et voir quelles promesses ont été tenues, quelles promesses bien sûr n'ont pas été tenues. Et puis le deuxième slogan de micro-ondes, c'est bien sûr l'actu brûlante et c'est pas du réchauffé. Et on est en plein dedans aussi puisque le film était projeté hier, c'est ça? Est-ce que je me trompe?
Tu ne te trompes pas du tout, Bat. Ce film, il a bien été projeté hier au 102 à 16h et il s'appelle « Et nous jetterons la mer derrière vous ». Et avec nous aujourd'hui, il y a deux des réalisatrices du film, Anouk et Noémie. On passe un coucou à Jeanne qui ne peut pas trop nous écouter, mais on pense quand même à elle qui était présente hier également. Alors, ce film, en effet, il montre différents témoignages de personnes qui viennent de différents pays et qui essayent d'atteindre l'Europe, et en passant notamment par la Turquie pour atteindre la Grèce. Je suis désolée pour ma voix qui n'est pas la plus harmonieuse aujourd'hui. Alors, les personnes qu'on rencontre dans ce film, ils nous racontent leur parcours de galérien qui ne va pas s'arrêter une fois que les frontières de l'Europe sont passées, bien au contraire. Et ils nous racontent aussi les raisons de leur exil. Et ils livrent vraiment beaucoup d'eux-mêmes et on sent que... Il y avait une belle relation de confiance que vous aviez pu créer, les réalisatrices, avec eux. Et justement, je voulais que vous nous racontiez un peu comment vous avez rencontré ces personnes-là et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film, plus généralement.
Bonjour. On est très contents d'être ici pour présenter le film. Ça s'est très bien passé hier. C'est un film en fait, qu'on a commencé à penser en 2009-2010. À ce moment-là, nous, à Montreuil, notamment, on s'organisait déjà à plusieurs dans des collectifs de lutte et de solidarité avec les sans-papiers. Et on avait organisé quelques forums de discussion, etc., sur Montreuil. Et en parallèle de ça, on s'est rendu sur l'île de Lesvos en 2009, où il y avait un camp No Border qui était organisé contre les frontières, donc un camp... qui réunit différents activistes internationaux aux frontières, à des points chauds des frontières. On s'est rendu là-bas et puis on est resté là-bas et on a rencontré un jeune Afghan qui s'appelle Siddiqui, qui était là-bas déjà qui était en Grèce depuis 3 ans et qui, lui étant passé par Mytilini au départ, n'arrêtait pas de faire des allers-retours en essayant de sortir du pays et revenait toujours à Mytilini parce que c'était vraiment un endroit où il connaissait les gens, où il avait vraiment un contact. C'est une toute petite île, donc c'était vraiment comme un village. Donc lui revenait là, c'était un peu l'endroit le moins pire qu'il avait trouvé pour rester et militer aussi, continuer son activité militante. On l'a rencontré à ce moment-là, on a eu un contact assez fort très vite, on est devenus amis. À l'époque, moi j'habitais en Turquie, du coup j'ai fait pas mal d'allers-retours dans l'année pour parler avec lui et partager des moments avec lui. Et très vite, il a eu envie de raconter toute son histoire et tout son parcours migratoire. Et on a commencé à se demander comment on pourrait faire pour partager ça avec d'autres personnes. Et nous, on a cet outil qui est l'image et le son. Et du coup, on a commencé à penser à pourquoi pas faire un film avec lui. On a proposé à deux autres amis de Montreuil, donc Jeanne qui était là hier, qui a dû partir ce matin très tôt, et Clément qui habite à Angers, donc qui a pas pu nous rejoindre pour la projection hier, avec qui on faisait des choses par ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, on s'est dit, si on repartait tous les quatre sur les traces de Siddiqui et sur faire un peu le voyage à l'envers en repartant de l'Italie, en traversant la mer pour aller à Patras, qui est un point une zone portuaire en fait, d'où les gens essayent de passer par les bateaux pour traverser et se rendre en Italie, en passant par Athènes, qui est quand même la grande ville un peu clé de Grèce, et puis en repassant par l'île de Mytilini et en traversant jusqu'en Turquie. Parce que là, on avait aussi cette expérience de la Turquie, on avait aussi envie de parler de ce qui se passait là-bas. Voilà, donc on est parti en 2011. On a fait un mois, je dirais même deux mois de tournage sur place. L'idée, c'était de partir au départ avec Siddiqui, qui, trois mois avant le tournage, nous a annoncé qu'il avait réussi à passer en Allemagne, finalement, et donc il pouvait pas partir avec nous. Donc on est allé le voir à Berlin, on a fait l'enregistrement avec lui, et c'est lui qui nous a donné une grande partie des contacts et des personnes à rencontrer sur place. Et voilà. Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose sur l'histoire du film Noi?
Bah, juste compléter une chose très importante en fait, qui nous a vraiment aidé aussi à travailler avec les gens sur l'île, c'est que quand on est revenu du coup en 2011 pour tourner, on avait en fait avec Siddiqui appelé et prévenu en fait des migrants et des Grecs en fait qui habitaient à Lesbos, qu'on voulait faire un atelier avec eux d'écriture ou de réalisation de films. Et du coup ça, on l'a organisé en amont avant de partir. Ce qui fait que quand on est arrivé sur l'île, en fait, on avait un lieu qui s'appelle Bigno, qui est une sorte de partie de l'université de Mytilène qui est plus ou moins occupée. En tout cas, voilà, un lieu un peu autonome de l'université où il y a une radio, etc. Donc on avait ce lieu-là à disposition pendant 10 jours. Et du coup, un groupe de gens qu'on connaissait déjà, dont du coup certains sont dans le... Et nous jetterons la merde derrière vous. Mais pendant cette semaine-là, en fait, on a fait vraiment à la fois écrire, mais surtout les sortes de discussions pour essayer de se concentrer en fait sur des toutes petites parties de leur voyage et pour essayer de démonter un peu... des formes de récits de ces voyages-là qui ont été des fois répétés 10 fois, 15 fois pour les demandes d'asile, le HCR et toutes ces formes administratives. Et du coup, il y avait comme ça une façon d'engager la discussion et la rencontre en leur demandant de parler de tout petits moments en fait précis de passage. Et du coup, ça, on l'a fait avec eux pendant une semaine, et c'était un croisement entre ces récits-là et eux, ils choisissaient un endroit de l'île qui leur était familier ou qu'ils aimaient bien. Parce que c'était aussi ça dans ce film, nous on tenait vraiment à faire des choses avec des gens dans le temps, c'est-à-dire pas des gens qu'on rencontrait 2 heures au bord d'une plage et puis qu'après en fait on n'allait plus jamais se revoir, mais essayer de construire quelque chose avec des gens à qui on allait pouvoir prendre le temps. Et là il se trouve que ce court-métrage-là, il permettait aussi de raconter un peu comment eux, ils sont ancrés sur cette île en fait, qu'il y a vraiment des lieux qui... par lesquels ils passent tous les jours, qu'ils aiment beaucoup et qu'ils peuvent choisir un lieu qu'ils aiment bien comme n'importe quel habitant pourrait le faire. Et cet atelier-là, il a aussi voilà, fait que leur rapport à l'image ou même comment on s'est rencontrés, etc., ça a été beaucoup plus simple après en fait, pour discuter, pour se demander ce qu'on allait filmer, ce qu'on allait enregistrer. On s'est un peu compris à ce moment-là dans ce qu'on voulait faire, quoi.
D'accord, ah, c'est à moi de reposer une question, très bien. Et ouais, donc dans le film, on voit en effet là ces parcours super compliqués des personnes là qui essayent de traverser. Et on voit aussi que localement, il peut y avoir des mouvements de soutien. On le voit à plusieurs reprises des habitants au niveau local. Et bah, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça se passe là-bas, s'il y a des mouvements de solidarité qui continuent et est-ce que vous avez gardé contact avec les personnes là-bas? Voilà.
Oui. Alors on le voit un peu dans le... Donc le film, il est un peu en deux parties. Les les gens qu'on a rencontrés nous racontent tout leur récit de parcours migratoire et les raisons pour lesquelles ils sont partis. Mais au niveau de l'image, nous, on est un peu dans... La première partie est plutôt, se passe plutôt en Turquie et la deuxième partie en Grèce, parce que c'est vraiment cette frontière-là qu'on connaissait le mieux. Et on, sur ce qui se passe en Turquie, dans le film, on voit... y a un petit groupe de solidarité qui s'est monté... en 2009, qui s'appelle GDA, donc Göçmen Dayanışması AE, qui est donc une organisation de solidarité avec avec les migrants et réfugiés à Istanbul. Dans le film, on voit qu'ils participent fortement à une mobilisation qui a été faite autour d'un meurtre d'un migrant nigérian qui s'appelle Festus Oke et qui a été tué dans un commissariat en 2007. Et dont le procès est toujours en cours. Donc il y a eu des reports de procès en cascade et le procès est toujours en cours parce que même si le policier a été condamné, finalement, après au moins une quinzaine d'audiences, voilà, ils ont encore fait appel et ils ont encore trouvé d'autres choses pour dire que c'était pas vraiment de sa faute. Maintenant, je crois qu'ils sont partis à dire que en fait, il se serait suicidé avec l'arme d'un policier. Et puis c'est un procès où il y a plein de zones noires, il y a des caméras, les caméras de surveillance du commissariat qui ont disparu ou qui ont été effacées, voilà. Donc ça suit son cours et en fait ce groupe de solidarité, il s'organise aussi beaucoup pour médiatiser toutes ces histoires-là qui sont pas du tout médiatisées en Turquie. En Turquie, l'immigration, c'est très récent en fait. Il y avait beaucoup de gens qui passaient par la Turquie mais qui restaient, peu qui restaient en fait. Et vraiment, c'était pas du tout un sujet qui touchait l'opinion publique. C'était même pas du tout un sujet que les politiciens utilisaient dans leurs discours avant 2009-2010, où là, ça a commencé à... Les gens ont commencé à être plus bloqués aux frontières de l'Europe, en fait, et à rester en Turquie. Et puis après, avec la guerre en Syrie, où il y a... Là, je pense que ça a atteint plus de 2 200 000 Syriens et Kurdes syriens qui se sont rendus en Turquie et qui sont coincés là-bas. Pour faire un petit mot de ce qui se passe maintenant là-bas, après le mouvement de protestation autour du parc de Gezi à côté de la place Taksim en 2013, gros mouvement de toute la société turque, il y a quelques initiatives qui ont émergé, notamment dans un quartier un quartier plutôt kurdes, assez populaires, gitans, avec plein de migrations en fait, de toute la Turquie et de gens plutôt pauvres. Il y a une cantine solidaire qui s'est montée et qui s'appelle la Mutfak. Et puis là-bas, voilà, ils organisent beaucoup de choses, notamment autour des migrants, mais aussi en fait, avec les gens du quartier. Voilà. C'est un endroit qui est assez chouette à Istanbul. Et il y a une autre initiative suite à la Mutfak qui a été ouverte de l'autre côté, donc du côté asiatique d'Istanbul, qui s'appelle le Komşu Café et qui est donc un café autogéré et qui avait aussi pour but, voilà, c'est une équipe de gens un peu qui galéraient, de gens qui étaient réfugiés et sans aucun argent, etc. C'est une dix-quinzaine de personnes qui en gros ont monté ce café autogéré aussi pour pouvoir gagner chacun un peu d'argent. Donc voilà, c'est un fonctionnement horizontal, ils gagnent tous la même chose. Tout est à prix libre, ils font cantine, café, restaurant. Et puis c'est aussi un lieu où on peut se rencontrer, où il y a des discussions politiques. Voilà. Et ça, c'est vraiment des initiatives qui sont nées après les mouvements de Gezi, quoi, qui ont... Et pour parler d'une toute petite action... d'une grosse action, mais qui s'est déroulée récemment. C'était en septembre dernier. C'était au moment où, après l'été, il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gens qui étaient morts entre la Turquie et la Grèce en essayant de traverser par la mer. Et il y a eu tout un mouvement de Syriens qui étaient à Istanbul, qui ont essayé de forcer le passage de la frontière à Edirne. Donc le passage, voilà, faut savoir que la Turquie, c'est les points de passage, c'est les îles qui sont les îles grecques qui sont à quelques kilomètres des côtes turques. Et puis plus au nord, il y a une frontière terrestre avec la Bulgarie et la Grèce. Donc la frontière, c'est un fleuve qui s'appelle le Meriç en turc, mais en grec c'est Evros, et il y a une partie de au niveau de la ville des Dirnés, il y a 10 km de frontière qui ne sont pas sur le fleuve, donc qui, les gens ont passé principalement par là. Et depuis quelques années, ils ont monté un mur, enfin voilà, une espèce de mur de barbelés. Il y a eu le Parlement européen qui a dit « Oh non, finalement, un mur, c'est pas bien. » Mais enfin, mais ils avaient déjà embauché des gens pour le construire, donc ils l'ont quand même construit. Du coup, il y a ce mur. Et là, il y a eu cette mobilisation en septembre où il y a des milliers de gens qui se sont retrouvés ensemble et qui ont essayé de passer la frontière ensemble pour aller du côté grec, qui ont essayé de faire pression sur les autorités et la municipalité, etc. Et il y avait pas mal de soutien, justement, des groupes de solidarité d'Istanbul qui sont allés sur place pour les soutenir. Au même moment, il y avait beaucoup de gens qui ont fait aussi une mobilisation à l'autogare d'Istanbul parce qu'on leur interdisait aussi de prendre des tickets de bus pour aller jusqu'à la ville des Dirnés. Donc il y a eu des centaines et des centaines de Syriens qui ont dormi dans l'autogare, qui ont bloqué les départs de tous les bus. Donc ça a fait un gros mouvement. Et puis au bout d'un moment, ils étaient tellement bloqués qu'ils ont commencé à marcher tous ensemble sur l'autoroute. Donc, c'était au moins 500 ou 600 personnes qui ont commencé à prendre l'autoroute et à marcher. C'est à peu près 250 km à la frontière. Ils se sont fait très vite arrêter par la police et puis envoyés dans des bus à différents endroits de la Turquie. Mais voilà, c'était un espèce de gros mouvement. Et le mouvement qui était à la frontière, ils n'ont pas réussi non plus à passer à l'autre côté de la frontière. Ils se sont fait attaquer par la police et aussi les groupes fascistes qui vivent dans ces régions-là. Et il y a eu 5 arrestations, 3 Syriens et une Française et une Allemande qui sont allées en centre de rétention pendant pas mal de temps. La Française et l'Allemande ont été expulsées au bout de quelques... je crois qu'elles ont passé plusieurs semaines en détention. Maintenant, elles sont en procès pour essayer de pouvoir au moins débloquer le truc pour pouvoir retourner un jour en Turquie parce qu'elles ont l'interdiction de territoire. Et les 3 autres Syriens sont restés beaucoup plus de temps en prison, je crois 3 mois au moins. Et là, ils ont été relâchés. Et pour l'instant, on ne sait pas. Enfin, ils n'ont pas été réexpulsés en Syrie, mais je pense qu'ils ont l'équivalent d'une OQTF, hein, d'une obligation de quitter le territoire, mais ils sont toujours en Turquie. Voilà, un peu pour les mouvements en Turquie. Il se passe plein de choses. C'est clair. Noémie, tu voulais parler un peu des mouvements en Grèce, enfin des petites trucs de solidarité, notamment sur l'île de Lesbos. Ou...
Non, mais c'était ouais, juste pour donner des sortes d'exemples. Parce que ces derniers temps, on a fait pas mal de projections du film et souvent ça revenait un peu ces questions de est-ce que en gros la crise en Grèce et tout ça fait que, enfin en gros, quelle forme de solidarité arrive à être maintenue là-bas. Et là, c'est juste donner quelques petits exemples, mais aussi pour raconter aussi comment à des moments donné des choses qui ont été mises en place il y a quelques années pour des migrants ou des personnes en tout cas en situation de migration. Comment là, en fait, il y a des choses qui maintenant, en fait, permettent à des Grecs qui sont vraiment en galère. Je pense notamment, par exemple, aux hôpitaux sociaux, où, en fait, à l'heure actuelle, par exemple, à Thessalonique, où il y a un hôpital social à Thessalonique qui a été monté il y a quelques années, et qui, du coup, est dans la ville. Mais, par exemple, au mois d'août, ils sont partis, les gens qui font ça sont partis sur l'île de Lesbos pendant un mois pour pouvoir aider les gens qui arrivaient, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en place directement pour des gens qui ont fait un super long trajet, des fois qui ont traversé l'eau, etc. Et cet hôpital-là, à l'heure actuelle, en fait, il est fait pour les migrants. En fait, il était pensé pour les migrants au départ, mais à l'heure actuelle, il accueille aussi bien des Grecs en galère que des migrants, que différents types de populations. Et du coup, ça, c'est un truc qui existe depuis longtemps et qui est pérenne comme ça. Et on va dire dans les mêmes parages, là vers Thessalonique, etc., il y a vraiment des gens qui essaient de s'organiser, mais dans des conditions assez difficiles pour ramener par exemple de la bouffe à la frontière macédonienne. Sachant que même en s'organisant très bien, ils peuvent ramener entre 1000 et 1500 repas. À la frontière macédonienne, il peut y avoir des fois 3000 personnes. Du coup, ils se mettent eux-mêmes dans des situations des fois très compliquées, en fait, de pas ramener assez à manger, d'arriver là-bas. Il y a tellement de monde, en fait, que les gens savent pas tellement qui ils sont. Est-ce qu'ils sont, en fait, une sorte d'ONG, des gens qui les ont pris déjà pour l'ONU et qui leur ont demandé les tickets pour passer la frontière. Enfin, ça pose des vraies situations comme ça. Sur les questions de solidarité, ça pose des vraies questions de où on se place, quoi. Et comment on arrive aussi à expliquer aux gens qui on est et pourquoi on fait ça, etc. Et juste un dernier exemple, parce que du coup, sur l'île de Lesbos, nous, au moment où on a tourné le film en 2011, il y avait vraiment très peu de gens qui passaient par l'île. Les gens repassaient par la frontière terrestre en Thrace. Et là, en fait, quand les gens ont recommencé à passer par Lesbos, qui du coup réactive en fait une entrée administrative, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à revenir sur l'île. Et très vite, en fait, les habitants de l'île se sont mobilisés en disant « Ok, en fait, il faut un espace sur l'île pour que les gens, en fait, quand ils arrivent, puissent se poser, en fait, quelques temps, en fait, après le voyage, etc. » Enfin, après le voyage, en tout cas, en attendant le prochain voyage. Et du coup, il y a une pression qui a été mise par toute une partie des habitants de l'île et de camarades qui sont en lutte là-bas depuis longtemps pour récupérer, en fait, les clés d'un lieu qui, maintenant, s'appelle Picpa et qui était, en fait, une vieille... comment ça s'appelle ?
Colonie de vacances.
Ouais, une sorte de truc comme ça. En fait, c'est des bungalows, c'est en face de la mer, c'est des bungalows avec deux grands bâtiments en béton qui normalement peut accueillir genre 90 personnes. Bon, évidemment, hyper vite, enfin, il y a des étés où Picpa, je pense, ils ont pu être genre peut-être 600 personnes, ce qui évidemment est beaucoup trop pour le lieu, mais en même temps, c'est un lieu où la police ne va pas, les gardes-côtes ne vont pas, c'est juste géré par des gens de l'île et on va dire des gens comme Houssine, en fait, qui est dans le film, qui est un des mecs. Qui raconte, qui est coureur, etc. Et qui, lui, par exemple, est embauché par une ONG pour faire la traduction en arabe là-bas. Mais du coup, c'est vraiment un lieu géré comme ça, où il n'y a pas du tout de possibilité qu'en tout cas, les gens de la police ou des gardes-côtes, etc., y rentrent. Et du coup, ça fait une sorte de petit lieu un peu sûr, comme ça, sur l'île. Et que ça a vraiment pu être créé juste parce que les gens ont forcé un peu la mairie à ouvrir ce truc... Voilà, je sais pas, après des exemples, en fait, on en a plein, du coup, je...
Non, mais c'est chouette d'entendre ça et d'entendre qu'aussi, en fait, les problématiques qui nous traversent autour des questions de solidarité, de quelles actions prendre, comment mettre la pression sur les pouvoirs publics ou s'organiser plus en autonomie, ben, en fait, c'est des choses qu'on partage partout. Mmh. Et du coup, je me disais, vous, comme vous avez pas mal tourné avec le film, vous avez rencontré plein de personnes dans plein de villes ou campagnes en France et ailleurs et voir du coup des gens qui se mobilisent. Et est-ce que vous pouvez un peu nous dire, je sais pas, où ça en est, quoi, au niveau de la température, des mobilisations et de, je sais pas, l'optimisme ou pas. C'est la discussion qu'on a eue hier avec Jeanne en rentrant, j'étais un peu déprimée, mais vas-y, remontez-moi le moral.
Anouk me pousse la jambe, du coup. Non, nous, on a eu aussi cette discussion toutes les trois, là, hier. Parce que Clément n'est pas avec nous, mais et c'est pas facile à raconter. Concrètement, nous, on a fait des projections dans des endroits très, très différents. Enfin, c'est-à-dire aussi bien des festivals, des salles de cinéma, des squats, je sais pas quoi, des bibliothèques, etc. Et du coup, pas du tout forcément avec les mêmes, comment on dit, publics. Ce qui est sûr, c'est que là, depuis un moment, il y a différents endroits où on a été... notamment dans les Cévennes, mais aussi dans le Tarn, ou même là de ce qui nous est un peu raconté de gens à Marseille, etc., où il y a plein de groupes de gens qui s'organisent pour pouvoir accueillir des personnes en situation migratoire. Je dis ça exprès parce que on pourra en parler après, mais il y a un vrai problème dans cette question d'accueil et de solidarité sur la différenciation entre réfugiés et migrants, puisque cet accueil-là et cette solidarité-là n'est pas du tout la même quand on parle de réfugiés ou quand on parle de sans-papiers, par exemple. Voilà, ça c'est un autre problème, mais enfin c'est un autre problème. Je ne sais pas si on en parlera maintenant, mais en tout cas sur cette question d'accueil, effectivement, nous on a rencontré des gens dans des villages qui du coup nous ont invités à venir passer le film, et où après les discussions elles étaient très concrètes d'un village à l'autre. Un village par exemple qui avait mis en place un accueil pour là ils étaient, je crois qu'ils avaient accueilli 6 Afghans, 2 femmes et 4 enfants. Et du coup, il y avait les gens du village d'à côté qui leur demandaient « Ok, vous avez fait comment on fait, ça prend combien de temps, est-ce qu'on passe par les institutions, est-ce qu'on n'y passe pas, si on y passe, ça fait ça, si on n'y passe pas, ça fait ça. » Enfin, et qu'il y avait vraiment un truc de discussion hyper concrète qui s'engageait entre les gens sur voilà, comment on fait, en fait, est-ce que, ok, du coup, vous avez des Afghans, mais du coup, alors, ok, si on veut... En fait, il y avait des villages, enfin, il y avait notamment un village où ils disaient « Mais en fait, nous, on s'en fout de savoir si ça va être des SDF blancs de Montpellier » ou des Afghans ou des Syriens, nous on veut juste se dire qu'on peut accueillir des gens qui sont à la rue là, dans ce local quoi. C'est absolument pas le cas forcément par exemple, de tous les collectifs qu'on a rencontrés. Enfin, du coup ça va dépendre comme ça vachement des gens et de comment ils s'organisent, etc. Après en vrai, moi je parle des Cévennes, mais toi tu sais beaucoup mieux que moi quoi.
Ouais, c'est des discussions qui sont intéressantes, puis un peu concrètes. Et en même temps, je pense que de poser le film au milieu de ça, ça a reposé des questions simples sur l'accueil, et puis qui vont plus loin que. En fait, je pense que ça ouvrait un peu. L'accueil, c'est pas que donner à manger, un toit, etc., mais c'est vraiment un soutien moral, psychologique, c'est discuter avec les gens, c'est aussi accepter qu'à un moment, les gens. Il soit pas dans ce qu'on projetait, enfin ce que nous en tant qu'occidental on projetait de quelqu'un qu'on allait accueillir. Enfin, c'est aussi se détacher de ces questions-là. Et ça c'était vraiment vachement intéressant de pouvoir discuter de ça avec les gens.
Et je sais que vous êtes passé dans le Trièves et ces problématiques, elles existent beaucoup aussi là-bas parce qu'il y a un début d'accueil et en effet se heurter un peu à des images préconçues de qu'est-ce que c'est. Enfin, moi ça me faisait penser à quand on accueille les choresses à l'école, vous voyez. Un truc de souvent ça se passe pas forcément bien et ça on a vu qu'il y a eu tout un mouvement de voilà suite à la guerre en Syrie nanana, tous les gens qui arrivent Syrie d'Irak enfin ou qui arrivent pas plus exactement en France mais et que plein de gens voulaient accueillir mais en fait ça se réfléchit vraiment cet accueil là et c'est chouette que vous puissiez passer et transmettre aussi ces expériences et comment un peu on peut se préparer voilà.
Oui puis aussi il y avait il y a toute ce truc autour des médias qui diffuse aussi beaucoup enfin les personnes qui défendent enfin qui entre guillemets vont défendre les réfugiés qui arrivent en ce moment ils vont beaucoup utiliser aussi le fait que mais non ils sont pas vraiment pauvres ils viennent de familles plutôt riches pour pas faire peur en fait aux Français mais en fait c'est un peu absurde aussi d'aller dans ce sens là quoi. Voilà, c'est tout plein de questionnements vachement intéressants qu'on a suite à ce film. Il nous sert bien à ça.
C'était justement un peu une question que je me posais, c'était est-ce que, enfin, du coup, la semaine dernière, enfin, le mois dernier, la dernière émission, on avait invité des personnes, du coup, qui parlaient aussi des frontières, mais plutôt sur un angle vraiment d'un exposé sur les politiques migratoires et leurs conséquences. Et puis, du coup, en hors micro, il y avait aussi cette question d'arriver à faire la passerelle entre ce qui est dit lors d'un temps un peu exposé où on raconte une situation et puis justement faire la passerelle avec une réalité concrète. Et je me posais la question parce que je me disais, voilà, un film qui du coup parle de témoignages qui sont politiques, mais peut-être les gens peuvent dire, ouais, mais c'est des situations individuelles. Et puis en plus, un film qui se passe en Grèce où les gens peuvent dire, ouais, mais c'est pas grave, c'est pas chez nous, en fait, nous on est en France, c'est différent. Est-ce que, voilà, les gens vous renvoient ça à la fin du film? Ou est-ce que finalement la passerelle se fait logiquement quoi en fait dans quelle mesure vous êtes contente de cet outil? Je sais pas si je suis claire.
Si t'es claire mais c'est je crois pas trop que les gens nous disent ou après peut-être ils se le disent et ils nous le disent pas mais que du coup c'est en Grèce et en Turquie et qu'on s'en fout tout ça. Après je crois que nous pour l'instant, on est souvent là quand même aux projections. Il y a des projections qui se font en Grèce et en Turquie sans nous, parce que le film, maintenant, il circule là-bas, on l'a filé à des copains, il circule sans nous. Mais ici, c'est assez rare, et nous, on le dit aussi, c'est-à-dire qu'on le raconte souvent, alors avant, pendant le débat, ou peu importe, que voilà, que c'est pas parce qu'on monte ce film-là en France qu'évidemment, on est en train de dire que c'est horrible ici, et que, évidemment, nous, on raconte aussi que c'est un problème européen, enfin que c'est beaucoup plus large que ça, etc. En tout cas, on nous le dit pas trop, ça. Et puis nous, on essaye d'être un peu clair quand on est là. Et puis on est souvent là, du coup, voilà. Et après, la passerelle, c'est ce qu'Anouk disait, ce qu'on disait avant, quoi. C'est que là, il y a une sorte d'entre-deux où nous, on va dans des endroits où je pense que le film, les gens n'ont pas forcément accès à ce genre de film. Et que du coup, c'est chouette de discuter avec des gens, mais des fois, c'est très, très loin. Je veux dire, c'est très abstrait. Et puis après, il y a d'autres endroits où on projette le film et où du coup, il nous sert à discuter avec les gens ou même il sert avec les gens juste à se rencontrer. C'est-à-dire, là, des fois, c'est juste, ils vont projeter un film, le nôtre en l'occurrence, mais sur la migration pour faire une soirée où en fait, ils vont parler de choses très concrètes en France, enfin, pas du tout en Grèce. Ça nous arrive plein de fois où on parle pas du tout de la Grèce et de la Turquie, par exemple, dans le débat. Où on va parler, par exemple, de pourquoi on prend un Marocain et un Afghan qui sont pas partis pour les mêmes raisons, par exemple.
Et je crois qu'il y a autre chose dont vous aviez envie de nous parler. Alors, je vous laisse le micro et après, on devra vous dire au revoir.
Ok. Juste pour dire très vite que dans ces histoires-là de migration, etc., et vu qu'on essaye dans nos vies militantes et dans nos vies tout court de ne pas faire, de pas tout séparer, nous, on a un collectif contre les violences policières enfin nous, c'est un autre nous, mais c'est pas très grave, qui s'appelle le collectif 8 juillet, qui est à Montreuil, et on travaille depuis là pas mal de mois, si ce n'est d'années, avec d'autres collectifs de gens touchés par les, de gens touchés plus directement par des crimes policiers, donc des gens qui ont perdu des gens de leur famille, tués par des flics. Cette année, comme depuis une dizaine d'années, le 19 mars, enfin c'est entre le 15 et le 19 mars, il y a la Journée internationale contre les violences policières. Nous, on a choisi que cette année, ça serait le 19 mars parce que c'est un samedi et qu'on va faire un concert le soir. Et du coup, il y aura une manifestation en région parisienne le 19 mars et un concert de soutien aux familles le soir à la Parole errante à Montreuil. On est en train de s'organiser pour voir si on fait une sorte d'appel national à venir à Paris ou au contraire une sorte d'appel national à faire ce que les gens y veulent dans les villes où ils veulent. Et du coup, voilà, il y aura des infos. Il y aura des infos qui vont circuler au fur et à mesure du temps.
Super, ben voilà. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On espère pouvoir vous accueillir à nouveau. En tout cas, si vous voulez nous appeler pour raconter ce qui se passe lors de cet événement le 19 mars ou pour autre chose, c'est toujours possible. Je rappelle le numéro au passage, 04 56 14 23 54. Et on va se quitter en musique. C'est un morceau que vous avez choisi. Est-ce que vous pouvez nous le présenter?
Alors, c'est un morceau de Özdemir Erdoğan. C'est un morceau en turc qui s'appelle Gurbet. Et gourbet, en fait, ça n'a pas vraiment de traduction en français, mais c'est le mot qui désigne la mélancolie de l'exil. Et donc, ce morceau, c'est sur un immigré, c'est un morceau de 74, et c'est sur un immigré qui est parti travailler en Allemagne et qui demande à son pays des nouvelles.
On est toujours sur News FM, le 101.2 FM. On est ici depuis midi et jusqu'à 14h avec vous. Voilà, on le répète, n'hésitez pas, on a des invités, profitez-en. Si vous voulez leur poser des questions, rebondir au 04 56 14 23 54 ou sur Facebook Micro News FM. Voilà, dans tous les cas, on change de sujet sans transition ou avec un petit morceau du coup, en effet, qui nous a laissé dans cette ambiance du film « Et nous jetterons la mer derrière vous ». Et on commence du coup ce nouveau sujet qui est donc justement la situation du campement Flaubert. Il y a un mois, on était avec du coup Sorina et Vasile qui nous racontaient comment le campement avait brûlé et qu'est-ce qui avait été proposé à la mairie. Et aujourd'hui, on revient du coup sur ce sujet avec un petit montage sur la manifestation justement qu'ont mené des personnes de ce campement. Suite à l'incendie, en effet, une partie des habitants avait été relogée en hôtel et la DDCS ne finançait que 3 jours pour les familles qu'elle prenait en charge. Et du coup, une manifestation a été organisée pour l'ensemble des habitants afin, d'une part, de pouvoir récupérer le campement et de pouvoir se réinstaller, parce qu'on leur empêchait de s'installer, et d'autre part, d'interpeller la DDCS. Le petit montage du coup qui suit s'est fait ce jour-là, et vous entendrez notamment Sorina et Alexandra lors de leur rendez-vous à la DDCS avec Madame Dufour, pour représenter les intérêts des habitants de l'ensemble du campement Flaubert. Et puis juste après, du coup, ben Sorina reste avec nous pour faire le point sur ce qui s'est passé depuis. Qu'est-ce qui a été proposé en termes de relogement, les rapports avec la mairie, etc. Puis plein d'éléments et aussi les vôtres si vous avez du coup envie d'intervenir et de nous poser des questions par téléphone. On s'écoute ce montage et puis on se retrouve tout de suite après avec Sorina.
Bonjour.
Voilà, un petit bonjour et à tout de suite du coup.
Aici vrem să stăm. Aici
se liberte, egalite,
liberte, egalite,
egalite.
Nous voulons demander à Madame Dufour qu'une aide, qu'avec un logement, que ça assure de longtemps, pour pas à la nuit de hôtel, pour cuisiner, pour faire du travail. Parce que sinon, il y en a un logement de longtemps, puis ça, on ne peut plus trouver de travail.
On veut bien être reçu par la secrétaire générale de la préfecture.
Mais on veut être reçu aussi par la DDCS.
Chose et du style un quart d'heure à une demi-heure.
C'est des gens qui voulaient vivre dans un appartement. Et c'est des personnes qui voulaient vivre dans un camp comme les rondons.
Ça, c'est sûr.
Quand c'est le quand c'est le avec la nunta, a fost mecher bucătar la friptură și grătar și a lansat copii sicuță și de atunci nu mai venit că s-a supărat pe tine și trebuie să-l pupică. Nu.
Même avec un chien, tu te comportes mieux. Même, c'est pas grave que c'est un rom.
Discrimination.
Le rom, c'était pas un chien, c'était pas un volo, c'était pas un criminel, c'était pas une mauvaise personne comme tout le France.
Ne plus travailler, la même comme les Françaises. Ne plus travailler, ne plus ramener les enfants à l'école, ne plus vivre comme normalement.
Même si c'est des Roms, c'était.
C'est une vie.
C'est une personne avec des vies.
Pour l'instant, nous, notre dispositif hiver est complet. C'est pour ça que si vous avez déjà appelé le 115, vous n'avez pas eu de place, parce que le dispositif.
On appelle tous les jours.
Voilà, je sais, mais oui, mais c'est complet.
On va faire quoi? Où on va aller? Qu'est-ce qu'on va faire?
J'ai une petite fille de Anon. Nous fait quoi avec tout ça? Ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qui passe avec nous?
Je suis ici depuis 8 ans, j'ai 2 bébés ici, je bénéficie de l'assistance sociale et j'ai toutes les portes fermées.
Pour la principe, je suis normalement dans les conditionnalités dans ma continuité.
Je suis normalement dans les conditionnalités.
fictionnalité dans ma tranquillité.
Donc ce qui se passe là, je crois que ça me fasse plaisir. Hein. Et qu'on voudrait pas vivre ce que vous vivez.
Et qu'on voudrait pas vivre ce que vous vivez.
Et qu'on voudrait pas vivre ce que vous vivez.
Voilà, du coup, un petit montage pour revenir sur cette manifestation. En effet, où est l'inconditionnalité de l'hébergement? On voit bien que c'est uniquement un principe, comme nous le dit Madame Dufour. Et du coup, on a entendu une petite voix qu'on a la chance d'avoir ici en direct. Sorina, est-ce que... Voilà, du coup, c'était il y a un mois, cette manifestation. Où est-ce qu'on en est depuis, du coup? Qu'est-ce qu'a donné la mobilisation? Voilà. Est-ce que vous avez obtenu des choses? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé donc depuis un mois et cet entretien avec Madame Dufour?
Non, ça n'a changé rien. C'est toujours la même. Nous sommes toujours dans la misère.
Est-ce que vous avez pu vous réinstaller sur le campement?
Oui.
Ok.
Nous nous réinstallons, nous reconstruisons une cabane.
Mm-hmm.
Mais c'est toujours difficile pour nous, pour vivre comme ça.
Bien sûr. Et la DDCS, en l'occurrence, elle, du coup, Madame Dufour, qui s'engageait un peu à voir ce qu'elle allait pouvoir faire, etc.
La préfecture. Hein,
la préfecture, pardon. Donc, direction départementale de la cohésion sociale. Est-ce qu'elle a donné suite à ça? Est-ce qu'elle a fait quelque chose?
Non. Non, elle ne fait rien.
Okay. Tu dis, du coup... que vous avez les cabanes qui ont brûlé, il y a eu un incendie.
Oui.
À ce moment-là, du coup, j'ai cru comprendre qu'une partie aussi de vos papiers ont brûlé. Et du coup, si on a pu reconstruire les cabanes, qu'est-ce que sont devenus les papiers? Est-ce que...
Oui, sont tous papiers brûlés. De toute ma famille, en fait. Et c'est juste moi que j'ai pu récupérer mon carnet d'identité. C'est une personne. Que ce pasteur dans son église qui m'a aidé pour me faire mon carnet d'identité et mon certificat de naissance. Et le reste, mon mari, mon tous les enfants, il n'y a rien comme papier.
Et en fait, personne, ni à la mairie, ni ailleurs, n'a contribué, parce que refaire vos papiers, pour vous, c'était un coût.
Oui.
Ça coûtait de l'argent, non?
Oui. Oui, ça coûtait de l'argent. En fait, je parlais avec quelqu'un de la CCAS, il me disait que j'allais dans l'église, l'association, pour faire une quête pour moi.
Donc les politiques, le CCAS appelle en fait à ce que ce soit finalement les gens solidaires qui financent pour vous et les papiers et les aides. Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y a une partie des gens, là ça y est, qui n'ont plus du tout l'aide d'urgence, c'est-à-dire plus d'argent du tout.
Oui.
Et...
Oui, comme j'ai plus d'argent,
général,
j'ai plus
de conseil. Hein,
oui, oui, le conseil général m'aide avec rien. J'ai pas de secours d'urgence, j'ai rien. Nous, on est nourriture juste. Nous fait la manche. Et en fait, c'est mon mari qui est mécanicien. Mmh. Et lui, il me répare de temps en temps la voiture pour plus de nourriture. Et avec l'association. Des solidaires et tout ça, non. J'ai essayé, je me débrouillais partout pour tous les papiers, pour tout ça, et non. Je ne trouve pas de personnes pour m'aider.
Est-ce que vous avez des nouvelles de l'expulsion? Parce qu'on rappelle que c'est un terrain qui appartient à une société d'économie mixte qui dépend de la mairie, qui est présidée par une élue, et qui est un aménageur qui veut construire des logements. On a compris que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que la semaine prochaine, il y a le procès. Est-ce qu'on vous a donné un délai? Est-ce qu'on vous a dit que vous aviez une chance de rester au moins pendant un temps sur le camp?
Normalement, ce sont des personnes qui disaient que nous avons une chance de rester jusqu'au 31 mars.
Oui.
Ce sont d'autres personnes qui disaient qu'à la fin de février, nous devons sortir.
Le 1er avril, vous n'avez plus aucune garantie, c'est ça?
Oui, il n'y a pas de garantie.
Et que vous disent les gens, en fait? Parce que c'est que des... certaines personnes vous disent ça, certaines personnes vous disent ça, enfin autre chose. En fait, concrètement, pour la mairie, la personne que vous croisez le plus, enfin, pour le CCAS, c'est Madame Jacquemos, je crois.
Oui, c'est Madame Jacquemos.
Oui. Et est-ce qu'elle vous apporte des informations sur comment vous allez être accompagnée, ou est-ce que, en fait, qu'est-ce qu'elle, parce que je crois qu'elle vient souvent vous voir, mais du coup, elle vient
est-ce
vous voir pourquoi? Elle fait
quoi?
Normalement, elle vient. J'ai pas compris très bien parce qu'elle me disait juste, j'ai pas confiance. Normalement, moi, j'ai pas de confiance.
Dans elle? Vous n'avez pas confiance.
Mais elle vous dit quoi?
Parce que je ne sais pas comment expliquer en français ça.
Vous pouvez le dire en roumain, parce qu'on a Viu qui peut le traduire. En fait, si tu veux, Sorina, en roumain, c'est possible.
Nu am încredere în ea, pentru că de multe ori spune ceva și nu e adevărat, nu îndeplinește ceea ce spune.
Elle a dit que souvent, elle n'avait aucune confiance en elle parce que elle disait quelque chose, mais enfin Madame Jacquemos disait quelque chose, mais que c'était pas vrai et que c'était dû à ça qu'elle avait aucune confiance en elle.
Par exemple, elle disait quand on a laissé se nous intégrer en camp, ici à la place, la Flaubert, elle a dit peste săptămâna viitoare, peste 3 zile, vine și vă ia gunoiul. Ça a duré 4 semaines qu'on a venu.
Par exemple, elle a pu dire qu'ils allaient venir ramasser tous les déchets qu'il y avait sur le terrain d'ici 3 jours et que ça a pris quand même 4 semaines pour le faire.
Et au niveau des poubelles, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais que vous avez demandé aussi à ce qu'il y ait un ramassage de poubelles régulier, parce que maintenant vous êtes beaucoup. Il y a de nouvelles cabanes, il y a plein de gens sur le terrain. Est-ce que... du coup, les poubelles, c'est la métro qui prend en charge le ramassage des poubelles. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Qu'est-ce qui se passe?
Hier et avant-hier.
Et demain?
Oui. Enlever toutes les poubelles.
Les gravats? Oui. Mais pour les poubelles du quotidien, celles...
Oui,
ils viennent ou pas?
Et, je ne sais pas. Nous n'avons pas dit de ça. Je ne sais pas.
Pour l'instant, ils ne sont pas passés?
Oui, pour l'instant, ils ne sont pas passés.
Est-ce qu'il y a de l'eau et des toilettes sur le campement?
Non, nous n'avons pas de l'eau, pas de WC, pas rien.
Et est-ce qu'on vous avait dit qu'on mettrait l'eau, les toilettes ou ce genre de choses?
Oui, c'est déjà plus d'un mois qu'on disait qu'on allait les mettre. Il ne fait pas ça, il n'est pas à mettre.
Donc les mêmes élus qui disent toujours que les campements sont insalubres et que ça ne peut pas durer, etc., ne font rien en fait pour...
En fait, c'est ça que je n'ai pas compris. De l'autre côté, disait que nous allons rester jusqu'à 31 mars. Après, de l'autre côté, nous disait que nous allons mettre l'eau et WC sanitaire. C'est ça que je n'ai pas compris.
C'est qu'on vous dit des choses contradictoires à chaque fois.
Oui, à chaque fois.
Et concrètement, là, ça fait combien de temps que ça dure pour vous? Parce que on vous dit ça, mais ce n'est pas que sur le campement Flaubert, ça fait des années pour certaines personnes.
Oui.
Je ne sais pas, vous savez combien d'années?
Vous
êtes en France et qu'il se passe des choses comme ça?
Non, bon, je suis en France depuis plus de 8 ans. Moi, de 2-3 ans, ils disent des conneries que c'est pas fait.
Ouais.
Et je reviens du coup un peu sur ce quotidien. On est parti des papiers brûlés et justement de le secours d'urgence, ce qu'on appelle le secours d'urgence. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une aide?
AMU. Ah, c'est cours d'urgence, c'est une aide pour les enfants.
Ok.
Et...
Qui était de combien? Combien d'argent?
Avant, mais ça dépend de combien de les enfants.
C'est à peu près, je crois, 50 euros par enfant par mois.
Oui.
C'est quelque chose comme ça, entre 50 et 60.
50, 80.
Ouais.
Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide a été complètement coupée par le Conseil général à la fin de l'année dernière. Et qu'aujourd'hui, seules des petites aides ponctuelles peuvent être redonnées aux familles. Et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer. Donc toute la mission de protection de l'enfance, quand même, et de mise en sécurité des enfants aussi financière, ne serait-ce que d'apporter une aide minimale pour que les enfants puissent manger, n'est pas du tout assumée par la nouvelle équipe du Conseil général, par exemple.
Et je parlais hier soir avec une famille qui habite le camp Flaubert. Il me disait que maintenant, même agent conseil général ne le donne pas, il donne des tickets pour manger.
Oui, des tickets pour aller manger.
Oui, c'est ça.
Et on vous dit où, par exemple, au Fournil ou au Resto du Cœur, quoi?
Je sais pas ça. Mm. Vraiment, je sais pas vraiment. Peut-être c'est l'étiquette qui a pu aller chez une marquette pour acheter, je sais pas.
Je sais pas, la dernière fois qu'on a eu des tickets pour manger en France, dans le système social, je sais plus, il y a un travail qui est fait en ce moment par des gens de la patate chaude et d'hébergement logement. Et ça date, il y avait eu un gros combat pour enlever cette manière de faire de l'aide sociale, puisque le fait de plus avoir d'argent, du coup, vous pouvez plus vous acheter autre chose qu'à manger, quoi. Enfin, vous avez le droit d'aller manger dans les endroits où on vous donne à manger, mais vous avez plus le droit de vous acheter du savon, d'autres trucs, quoi.
Eh ben, on a besoin de ça, normalement.
Et puis on se défausse hygiène. Sur le tissu associatif une fois de plus, hein.
Oui.
Oui. Et par rapport à la santé, justement. Papiers. Enfin, j'entendais moi par exemple qu'il y avait des personnes qui avaient perdu leurs papiers et que ça posait des problèmes d'accès à la santé, puisque par exemple l'aide médicale d'État dépend d'un papier certifiant qu'on a le droit à l'aide médicale d'État. Du coup, cette personne ne pouvait plus aller chez le docteur. Quelles sont les conditions de santé sur le campement, etc.
Les conditions ne sont pas bonnes parce qu'ils sont beaucoup les enfants, qu'il y a plus de maladies, comme c'est très froid dehors. Et comme nous, on est chauffé avec les boîtes, c'est tout ça. Et comme c'est des jours que nous avons pas de boîtes, tout ça pour les chauffer. Les enfants ont pris la grippe. Et c'est difficile parce que comme nous n'avons pas de médicaments, pas d'argent pour acheter, pas de secours à EMU, rien, nous sommes obligés de les donner des thé juste. Tout ce que nous avons là, à la cabane.
On en a un peu parlé la dernière fois avec vous. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, on espère avoir des nouveaux auditeurs en plus,
oui.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu dans quelles conditions et pourquoi vous êtes venu en France il y a 8 ans?
Nous venir en France et quitter la Roumanie parce que la Roumanie c'est plus très très mal, plus difficile comme ici. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maison. En Roumanie, nous sommes la rue. En Roumanie, ne peut pas construire une cabane. Ne peut pas faire rien. En Roumanie, si construire une cabane comme ça, dans la terre, aller tout de suite à la prison. Et en fait, un salaire par un mois, c'est 150 euros, maximum 200. On ne peut pas vivre.
Et pour les enfants et l'école, comment ça se passe en Roumanie? Est-ce que c'est la même chose qu'en France et les enfants peuvent être scolarisés sans difficulté?
Non, pour scolariser, ce n'est pas une difficulté, mais s'il n'y a pas de vêtements, de donner à manger, parce qu'il n'y a pas de cantine en Roumanie, pour qu'elle donne manger gratuitement ou comme ça, il n'y a rien.
L'école est gratuite en Roumanie ou je ne sais pas moi en fait?
Non, paye un petit peu d'argent par mois, par semestre.
Et du coup, cette situation, est-ce qu'elle est, par rapport à ce que vous vous imaginiez de votre accueil en France, comment est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez qu'on vous traite? On entendait Alexandra qui disait, même aux chiens, tu leur fais pas ça, et pourtant nous, on est des humains. Est-ce que tu partages cet avis? Comment...
Quelle aide tu as en France?
Je n'ai pas compris très bien.
C'est de qu'il y a ajouté en France, car à Ouameni, qu'il y a des villes, tu ajoutes, tu as accéléré, ça ou tu as
banné. Non, je n'ai pas d'aide. Non.
Mais du coup, parce que dans le reportage, il y a plusieurs phrases. Il y a, je crois que c'est toi qui dis à un moment donné. Mais qu'est-ce que vous avez avec nous? Je me souviens que tu l'as dit à Madame Dufour. Qu'est-ce qui se passe avec nous? C'est ça, je crois, ta phrase. Qu'est-ce qui se passe avec nous? Et puis Alexandra qui dit on nous traite comme des chiens. Bon, en gros, vous avez dit aussi il faut que ça s'arrête, la discrimination. Est-ce que vous pensez vraiment que le traitement que vous avez, vous, ici, en France, et l'accueil qu'on vous donne voilà.
Bon, en fait, moi... Enfin, nous, les Roumains, nous sommes dans l'Union européenne. Nous avons le droit de rester ici. Et en fait, l'Union européenne paye pour nous. Pour nous rester ici, nous avons le droit de travailler. Mais nous, on cherche du travail. Si on ne trouve pas, nous fait quoi? Nous voulons vraiment un travail, une maison pour nous, les enfants, pour ne plus... Să creștem copii.
Pour que les enfants puissent grandir.
Oui, pour grandir les enfants, pour leur donner une bonne situation.
D'ailleurs, on peut lancer une annonce, hein, là, du coup, sur la question de l'emploi. Il y a quand même beaucoup de gens sur le camp Flaubert et dans les autres campements à Grenoble qui cherchent du boulot. Et le fait d'avoir été expulsé de manière régulière depuis plusieurs mois, plusieurs années, a fait quand même que la recherche d'emploi, elle devient problématique. Toi, Sorina, je crois que tu as des entretiens bientôt, là.
Oui, ouais, peut-être, oui.
Peut-être, mais oui. En fait, c'est un...
Puisque... Je sais que son compagnon aussi a de l'or dans les doigts, mais
ah oui,
il n'est pas le seul.
Ah oui, ouais. Mais il fait tout avec ses mains. Ouais. Mais du coup, on ne met pas assez l'accent sur ça. C'est qu'on vous demande, en fait, à vous, en 3 mois, en France, d'être capable de subvenir à vos besoins, d'avoir de l'argent en 3 mois. Et n'importe qui, aujourd'hui, vu le contexte du chômage en France, n'importe qui en France... ne peut pas, en 3 mois, réussir à faire ce qu'on vous demande à vous, en fait. Et du coup, appel aux auditeurs. Hein. S'il y a des gens qui veulent et qui recherchent du monde, bah, il y a des gens qui veulent bosser à Flaubert. Sorina, tu cherches du boulot. Ton mari aussi, il y en a plein qui cherchent du taf. Appelez.
S'il vous plaît.
Eh bien, en tout cas, merci Sorina. On vous réinvitera lors de prochaines émissions pour faire le point.
Oui, alors, je voulais parler de ma belle-mère.
Oui, alors vas-y. Hein?
J'ai la belle-mère qui s'appelle Laura. Elle s'est dans son fauteuil roulant. Elle ne peut faire rien. Tu peux aider, s'il te plaît. Bon, je vais spune că ea este în foto, cum este în căruț, nu poate să facă nimic. Avem nevoie dacă cineva are un căruț sau care să ne poate ajuta cu ceva. Nu are nimic, haine de îmbrăcat, de încălzit, nimic. Dacă e cineva care poate să ne ajute.
Oui, elle demandait s'il y avait des gens qui pouvaient aider parce que
belle-mère.
Sa belle-mère est en fauteuil roulant et elle peut rien faire. Et surtout aussi, elle a pas de vêtements, elle a pas de chaussures. Et voilà, si vous connaissez autour de vous ou si vous avez autour de vous des habits, des chaussures et un fauteuil roulant, ça serait avec un grand plaisir.
Et on peut rappeler simplement que le camp Flaubert, il est situé entre la MC2 et la Bifurque. Et donc, il faut demander Sorina. Voilà, et donc c'est une chose qu'on va suivre de très près, à la fois par Sorina, à la fois, oui, je te donnerai la parole, et à la fois pour ce qui se passe avec les pouvoirs publics, hein, parce que c'est une chose, une fois de plus, qu'on sent venir de façon très brutale, et nous serons vigilants là-dessus dans notre prochaine émission.
Oui, mais je voulais juste ajouter un truc qu'on a oublié et qui a quand même été quelque chose de fort la semaine dernière. C'est qu'à Flaubert, la semaine dernière, il y a eu des policiers qui sont arrivés avec un gamin de 12 ans qui avait soi-disant volé un vélo. Et les policiers ont été très agressifs et très violents envers le gamin. Je ne sais pas si tu veux continuer, parce que ça a été...
Et en fait, cette gamin n'habitait pas chez nous, à la place Flaubert. Et après, la police arrivait, donnait des gaz lacrymogènes par toutes les personnes. Tous les enfants, il y a problème avec des yeux, des respirations. À cause de ça, après nous appeler ambulance, les pompiers, oui.
Et les pompiers à ce sujet ont refusé de faire une petite attestation pour dire juste qu'ils avaient effectivement examiné les enfants, des enfants des tout petits bouts de chou de 2 ans ou 10 ans avec des gaz lacrymaux plein la tronche. Quand même, les pompiers ont refusé. Il y avait Madame Jinquemos qui était là. Oui, elles ont voulu étouffer l'affaire comme si rien ne s'était passé. Alors que vous, expressément, vous leur avez demandé de faire un papier pour le dire, quoi.
Et moi, après, je le disais à Madame Jinquemos aussi. Pourquoi les pompiers ne voulaient pas nous donner un papier comme examiner les enfants, nous donner des petites solutions pour mettre dans les yeux. Et elle disait, oui, c'est normal. C'est normal parce que c'est... Tout ça, c'est parce comme ça, les pompiers ne te donnent pas les papiers. Mm. Bon, je sais que ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas normal, ça.
Donc voilà, en fait, la réponse que vous avez des pouvoirs publics, ce genre de trucs, hein, ce genre de répression, de violence, et voilà.
Oui, c'est ça.
Bon, vous êtes sur News FM, l'émission Micro-ondes. On rappelle le numéro de téléphone pour nous joindre si vous voulez intervenir, soit pour des informations, soit pour des questions. C'est le 04 56 14 23 54. Et vous avez aussi Facebook, News FM, Micro-ondes. Là, on va passer à un autre sujet qui est quand même dans la lignée du précédent. Ce sont des Échirolois qui sont qui à 3 ans, à l'approche de l'hiver, se sont mobilisés par rapport à des personnes qui s'installaient au pied de leur immeuble. Et en réponse à cette installation, ils ont eu simplement dans les montées, c'était aux Granges à Échirolles, ils ont eu simplement dans les montées des affiches d'anonymes qui disaient « c'est inadmissible », des Roms, parce qu'à partir du moment où il y a des tentes, ce sont des Roms, s'installent au pied de chez nous, c'est pas bien, etc. Ils ont demandé leur expulsion. D'autres habitants, à ce moment-là, se sont mobilisés, se sont demandé qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire, se sont réunis, et c'est l'interview que vous allez entendre maintenant. Ce sont des habitants qui relatent un peu cette expérience qui les a beaucoup marqués.
Après l'affichage des tracts, ben on a été plusieurs voisins à se dire « c'est pas possible, en plus c'était un tract non signé ». On a écrit une petite affichette en disant que nous on était allés voir ces familles, que c'était des personnes qui avaient des besoins. On essayait d'y répondre et qu'on essayait aussi de trouver une solution d'hébergement pérenne pour ces familles en s'adressant aux diverses institutions concernées. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de gens qui ont signé ce tract. On l'a affiché dans toutes les montées de notre quartier. Petit à petit, soit par mail, il y a eu une liste de plus en plus grande. Et au fur et à mesure que la liste grandissait, on l'affichait dans le quartier. Des gens qui d'ailleurs souvent ne connaissaient pas du tout cette situation et qui l'ont vraiment découverte. Et spontanément, les personnes du quartier, ben, elles sont venues qui apportaient des couvertures, qui apportaient à manger. Nous, par exemple, on a apporté une pelle pour qu'aussi ils puissent faire un trou parce qu'ils n'avaient aucun endroit pour aller aux toilettes. Ils étaient obligés d'aller à Grand Place. Nous, on a d'abord pris connaissance et puis petit à petit, on a essayé d'agir en tant que citoyen.
On est allé voir les gens. On a eu un problème pour se parler parce qu'ils ne parlaient pas français. Bon, on s'est parlé un peu avec les mains, etc. Mais, et il y avait un gamin de 10 ans qui parlait français et qui traduisait pour la famille de son côté et pour nous. Et on est arrivé à se comprendre un peu. Et là, on a vraiment vu une misère qu'on n'avait pas vue de près jusqu'alors. C'était des gens qui ont été baladés d'un endroit à l'autre ici dans l'agglomération et qui avaient été amenés par la police parce qu'on savait pas quoi en faire. Ils étaient au parc Paul Mistral au départ et on les a amenés ici. Nous ne connaissions pas ces problématiques-là et on savait pas trop comment faire. Du coup, on a contacté les Patates Chaudes et d'autres personnes qui faisaient partie des collectifs pour nous aider. On ne savait pas quoi faire de tant de gens et il fallait absolument les mettre à l'abri. Et il fallait leur donner à manger parce qu'ils n'avaient pas mangé depuis pas mal de temps. Il y avait plein de choses comme ça, d'urgentes à faire, auxquelles les institutionnels ne répondaient pas. Après avoir sollicité un endroit pour les rassembler, pour les mettre à l'abri de la neige qui allait arriver, on a dû tricher un peu en demandant l'accès à une salle de centre social. Et puis,
pourquoi tricher?
Parce qu'on a dit que c'était pour une réunion.
Oui.
Ce qui était terrible, c'est que ces personnes, elles étaient là depuis à peu près une quinzaine de jours. Et le samedi, on s'est retrouvés au centre social, il faisait un froid mais épouvantable. Et donc, comme la salle était petite, les gens mangeaient à tour de rôle, mais en fait, ils sont restés dans la salle. Parce que c'était intenable d'être dehors. Et c'est là qu'on a réussi, après beaucoup de coups de fil et tout à la préfecture, à savoir qu'il y aurait l'ouverture du gymnase. Et au début, on a dit à la préfecture, mais vous allez organiser le transport? Ils ont dit non, ils n'ont qu'à prendre le tram, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et alors du coup, on s'est débrouillé entre nos véhicules, 2 véhicules de la MJC qu'on a pu avoir, parce qu'on s'est dit que c'était impossible. Et là, on a vu aussi la panique de ces personnes. Nous, on a été plusieurs à emmener d'abord les femmes au gymnase avec les enfants. Et les hommes, ils sont restés pour, avec d'autres, nettoyer, emmener aussi leurs affaires. Et les femmes, elles étaient terrifiées. Enfin, on a vu aussi qu'il fallait qu'ils aient une super confiance. Parce qu'ils n'avaient qu'une peur, c'est de ne plus arriver à se retrouver ensemble. Et ensuite, quand on est arrivé au gymnase, on a été glacés par l'accueil. Parce que franchement, dans ce gymnase, c'était à la fois la Croix-Rouge et la Répit qui accueillent les personnes, mais nous, on a trouvé qu'il n'y avait vraiment pas de respect et d'humanité dans la façon dont ils les ont accueillis. Et bah, nous, on a essayé, comme on était là, qu'on connaissait les familles, on a essayé de faire un peu le lien. Et au début, il y a eu un peu une esclandre, parce que quand on est arrivé, ils ne voulaient faire rentrer dans la salle que les femmes et les enfants, et pas les hommes. Et nous, on a dit, c'est tout le monde ou personne. Il y avait quelques tentes de la Croix-Rouge qui étaient mises à l'intérieur du gymnase, et on accueillait que les mères avec les enfants très jeunes, de moins de 3 ans. Tous ceux qui avaient des enfants plus grands, ils étaient sur des lits de camp, les uns à côté des autres, dans le gymnase. Et vous imaginez bien, il y avait des jeunes filles. Pour elles, c'était la terreur. On se disait, elles vont pas pouvoir dormir, elles vont avoir peur. Ces familles avaient vécu des choses très terribles. Il y avait des femmes qui avaient subi des viols. Parce que petit à petit, par la patate chose, on a pu faire venir des interprètes. Parce que nous, on se disait, il faut qu'on arrive à se comprendre. Et puis, c'était d'autant plus important pour la confiance. Et c'est vrai que quand on est arrivé, on a été un peu échaudé parce que, eh ben, aucun de nous ne savait vraiment comment ça se passe dans les gymnases. Et là, on a vu que c'était quand même très, très difficile. Il n'y avait absolument aucune intimité. Il n'y avait pas de repas de prévu, pas de douche. Il a fallu qu'on demande qu'il y ait des douches. Et en fait, il n'y avait que des douches froides. Il n'y avait pas de porte aux douches, donc impossible. Il y avait un responsable de la répit qui passait son temps à hurler. Mais vraiment, c'était terrible, et qui voulait nous expulser du gymnase en disant qu'on perturbait l'installation, alors qu'on perturbait rien du tout. Nous, on connaissait les familles, et au contraire, on pouvait faciliter. Et ce qui nous a aussi fortement choqués, c'est que les autorités, que ce soit quand même les communes, le conseil général ou l'État, eh ben franchement, ils n'avaient pas du tout anticipé, alors qu'on savait depuis 2 jours qu'il y aurait de la neige. Donc nous, pour nous, c'était incompréhensible.
Il y avait quelques personnes malades. Et si ces personnes sortaient du gymnase pour aller à l'hôpital, elles perdaient leur place dans ce gymnase. On a beaucoup insisté auprès d'une assistante sociale qui était venue sur place, qui a fait venir les pompiers. Et le capitaine des pompiers était vraiment très choqué par la situation de ces gens. Il y avait une maman en particulier qui était seule avec des jumeaux, qui n'allait pas bien du tout, qui était très apeuré. Il y a un des gamins qui a été amené à l'hôpital. Et là, il demandait à la maman de l'accompagner en laissant l'autre jumeau complètement affolé. On leur a demandé de les amener tous les deux. Ben non, il n'en était pas question. Les pompiers étaient atterrés. Il a poussé un coup de gueule. Ça a aidé un petit peu à améliorer la situation pour la prise en charge pour ces gens, mais pas pour tout le monde. J'ai pas trouvé que tout le monde était traité correctement, y compris à l'hôpital, où une femme a accouché et 3 jours plus tard, elle revenait au gymnase avec son nouveau-né.
Je crois que ce qui nous a le plus frappé, c'était quand même le manque d'humanité vis-à-vis de ces personnes. Et de la part des institutions, toujours un pas un peu en arrière, en disant « moins on en fait, mieux ce sera ». Comme si vraiment il n'y avait pas du tout de volonté de les accueillir dignement et avec humanité. Après le gymnase n'a pas duré très très longtemps, et les familles ont été dispersées dans 2 endroits différents, un à Grenoble et un autre à Domaine. Et en particulier dans la maison de Domaine, eh ben, d'une part, on avait fait des démarches auprès du maire. Les enfants ont mis un temps fou avant d'être scolarisés. Donc on trouvait ça inadmissible. Alors qu'on a essayé de contacter le maire, M. Savin, et on n'a jamais pu, on n'avait pas de réponse. Heureusement, on avait contact avec Réseau Éducation Sans Frontières qui nous a aidés dans tout ce maquis et ces démarches. Il y a un autre point qui nous a beaucoup choqué, c'est qu'on avait fait un dossier à tous les élus de la métropole, et d'abord, presque, ils ne nous ont pas répondu, et notre dossier disait qu'il devait y avoir des solutions pour ces personnes et qu'il fallait les chercher, et qu'on était prêts à les aider. Jamais personne ne nous a répondu.
C'est le CCAS de Grenoble qui nous a reçus, mais la plupart des autres communes n'ont donné aucune suite. On a entendu par-ci, par-là, on a déjà nos pauvres, entre guillemets, on ne peut pas ajouter de la misère à la misère. Et ça, c'est le genre de réponse qu'on a trouvé inacceptable.
Je pense que dans la majorité de ces institutions, il y a une indifférence. Et puis, il y a peut-être une volonté de ne pas accueillir. Enfin, on s'est posé des questions. Et comme on n'avait pas de réponse de toutes ces institutions, on a essayé de faire une conférence de presse qui a eu beaucoup de succès parce qu'on est même passé à la télévision. Et on s'est dit, ben, au moins, on va essayer d'alerter. Ce qui s'est passé chez nous, c'était peu de temps après Marseille, où les gens, ils avaient mis le feu et puis ils voulaient agresser les familles. Bon, nous, on a trouvé qu'on a essayé d'avoir une autre attitude. Après, cette autre attitude, on voit qu'elle a ses limites. Elle a au moins permis que pour ces 70 personnes, ça a peut-être été moins terrible que si on n'avait pas été là. Par contre, nous, on aurait voulu pouvoir agir plus. Parce que dans notre groupe, c'était intéressant parce qu'il y a à la fois des gens qui se sont engagés simplement pour aider les familles concrètement. Ils ne voulaient pas forcément aller plus loin, mais ce qu'ils ont fait était très utile. Et d'autres qui se disaient, non, on ne peut pas laisser comme ça, on a découvert une telle intolérance, on voudrait plus agir sur les institutions. Le bilan qu'on peut tirer de ça, c'est que d'abord, on a eu des contacts concrets. Donc, quand on entend des choses horribles sur les Roms ou sur ces familles macédoniennes, on dit, mais non, nous, on a connu des gens, on sait comment ils étaient, on a parlé avec eux. Il y en a certains, il y a une famille, moi, on est restés amis, on continue à se contacter. Ils ont pu, maintenant, avoir leur propre logement. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et je pense aussi que maintenant, on suit beaucoup de plus près tout ce qui se passe. Quand il y a eu tout ce qui s'est passé à Esmonin, on se sentait concerné. Dans cette situation des familles qui arrivent et puis qui sont finalement quand même rejetées par la majorité et de la population et de nos institutions, mais il y a peut-être que cette action citoyenne qui peut peut-être faire évoluer les choses. On s'est aperçu que nous, il fallait qu'on continue à suivre parce qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, comme par exemple la scolarisation à domaine ou comme des suivis médicaux. Donc les familles avaient des demandes vis-à-vis de nous puisqu'on se commençait à se connaître bien. Mais on s'aperçut aussi de nos limites, parce qu'à un certain moment, ça prend tellement de temps que chacun a aussi son travail, ses activités. Et donc, on a vu qu'il n'y avait pas une réelle prise en compte des institutions, que ce soit des travailleurs sociaux ou de tout le secteur de l'hébergement, pour prendre vraiment en compte les besoins de ces familles. Ça nous a posé plein de questions, parce que toutes les idées qu'on avait auraient pu être reprises par les institutions, et ça aurait dû être dans ce sens-là. Et en fait, c'était un peu plutôt « oh là là, on se protège au maximum ». C'est un peu dur parce que on s'aperçoit que ce travail qu'on a fait de citoyen, il faut tout le temps le recommencer. Et peut-être ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux. On a réalisé aussi que c'est un long chemin. Heureusement aussi qu'il y a des associations comme la Patate Chaude, la Parda, RESF, qui finalement ne lâchent pas pour essayer que ces personnes aient vraiment un jour des vrais droits. Quel que soit le pays d'où on vient, on doit pouvoir avoir les mêmes droits.
Un super témoignage qui fait chaud au cœur et qui nous parle justement d'action citoyenne au lieu de laisser la place aux préjugés et à la violence, comme c'est souvent le cas malheureusement de la part des riverains, puisque c'est bien comme ça qu'on les appelle et que les médias aiment les appeler. Au contraire, se comporter en voisin, comme on va le voir. Est-ce que, justement, toi, Sorina, tu as eu des relations assez bonnes avec des voisins ou avec des riverains?
Oui, j'avais aide d'un pasteur de l'église évangélique chrétien qui s'appelle Reynald et Safan Josiane, et encore un ami, Hubert, que je le voulais remercier beaucoup parce qu'il m'aidait pour... Je leur refaire mon papier. Et encore une jeune fille qui s'appelle Eva, qui m'aide avec des papiers pour chercher un travail. Elle m'aide avec tout ça, avec CV et des questions de travail. Je voulais remercier à elle aussi.
D'accord, c'est chouette en tout cas de les remercier. Et c'est chouette aussi justement de donner de la visibilité à ces actes et de ne pas montrer qu'en fait, non, toute la population française n'est pas forcément anti-Rome et aimerait que tout le monde s'en aille et qu'il y a au contraire des gens qui jouent la solidarité et la tolérance. Malheureusement, c'est déjà un peu le moment, en tout cas, d'écouter un autre petit témoignage. Puis peut-être vous pouvez rester avec nous si vous voulez en parler. Mais en tout cas, on continue sur cette thématique des Roms. On se fait d'abord une petite pause musicale. Est-ce que toi, tu avais envie? On a l'habitude souvent de proposer aux invités de nous présenter un morceau. Est-ce que tu as envie de nous parler d'un morceau?
Oui. En fait, j'aime très bien une chanteuse de Roumanie qui s'appelle Ina, qui avant de chanter, elle était la même endroit que moi. Elle était la roue. Et maintenant, elle est devenue une grande diva, comment on dit, diva, une grande chanteuse. Oui, elle réussit en sa vie. Et pour ça, je présentais sa musique.
Super, du coup on s'écoute Ina et juste après du coup on reviendra donc toujours sur cette thématique des Roms avec Eric Fassin, Roms et Riverains. Vous êtes toujours sur News FM 101.2 FM. N'hésitez pas à nous appeler, à nous poser des questions 04 56 14 23 54 ou à réagir sur le Facebook micro-ondes News FM. Voilà, tout de suite, du coup, Ina Yalla.
Ok.
Merci pour ce morceau du tout. Ah, il y a Roberto, tu veux dire quelque chose?
Bonjour.
Roberto, tiens, c'est le moment si tu veux nous raconter quelque chose à la radio. T'as aimé le morceau? Ah, ça y est. j'ai coupé la chic en étant trop insistante. C'est pas comme ça. Sorina, tu veux réagir par rapport à ce morceau? Tu veux réagir? Tu veux dire quelque chose?
Je sais pas, quand j'écoutais cette musique, je pensais juste que peut-être moi j'ai réussi en ma vie de trouver un travail pour donner une bonne vie à mon enfant.
Ouais, on te le souhaite et on espère. Et que du coup, juste après, là, on va écouter le reportage sur une conférence qu'a fait Eric Fassin. Et en fait, Eric Fassin a fait tout un travail en fait sur. Son bouquin s'appelle « Rome et riverains, une politique municipale de la race ». Et en fait, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la solidarité. On a insisté sur le fait que ah, y a des gens qui viennent vous aider, c'est bien, etc. Eric Fassin, lui, ce qui démontre, en fait, et ce qu'il explique, c'est ce que beaucoup de gens savent déjà, c'est que derrière, ce n'est pas qu'une histoire de solidarité, que ce qui vous arrive à vous... Rome ou présumé Rome, parce que vous n'êtes pas à partir du moment où les gens sont sous détente ou dans un bidonville, on dit qu'ils sont roms. Ce qui vous arrive à vous, en fait, ça n'est pas ça n'est pas juste un problème qui arrive comme ça. Ça n'est pas juste des gens qui arrivent et qui vivent dans un bidonville et qui salissent le bidonville et qui n'arrivent pas à s'insérer parce qu'ils ne pourraient pas s'insérer parce que soi-disant vous auriez des problèmes culturels à vous intégrer avec nous. C'est vraiment une politique et ça va être ça la conférence d'Éric Fassin, c'est d'expliquer en quoi cette politique raciale qui est menée au niveau européen, qui est aussi menée au niveau de l'État, elle est complètement menée par les municipalités. Et les municipalités disent avoir un problème à gérer quand elles ont un bidonville. Elles disent on n'a pas d'argent et en réalité elles cautionnent et elles entretiennent cette politique raciale et elles font des Roms les personnes qui vont être le gros problème, la question Rom, on dit aussi dans les médias, on dit souvent la question Rom, qui va être le problème à gérer. Ce qu'il explique aussi par extension, c'est que c'est les Roms parce que vous êtes les personnes qui en prennent le plus plein la tronche. Vous en prenez plein la tronche parce que vous êtes européen, parce que vous avez des droits et qu'on peut pas vous virer comme ça. Ça, c'est un peu des choses qu'il explique. Et que derrière, on fait le même traitement à des sans-papiers. Et puis ensuite, quand on n'aura pas réglé les problèmes des sans-papiers, on pourra aussi s'attaquer à toute autre catégorie de la société. Ça peut être les Noirs, les Arabes. En tout cas, la politique raciale, elle sert à ça. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, lui, il parle beaucoup mieux que moi. Donc, on va passer le reportage de Romé Riverain. C'est la conférence qui a eu lieu à Saint-Martin-d'Hères. Voilà, à Saint-Martin-d'Hères. Et juste pour préciser, dans la deuxième partie de la conférence, on entend un petit peu Alain de Noyelle, qui est quand même élu à la ville de Grenoble et vice-président du CCAS, et qui était là à côté. Donc, c'était un peu bizarre d'avoir à la fois quelqu'un qui dénonce les politiques municipales raciales et d'avoir à côté quelqu'un qui les applique et qui les pratique sans discernement. Voilà, tout de suite le reportage de la conférence.
L'ouvrage auquel j'ai participé, qui s'appelle Roms et Riverains, son sous-titre c'est une politique municipale de la race. Donc un des enjeux c'est d'essayer de comprendre comment la politique d'État se joue aussi au niveau local. La politique ça a des effets sur les sujets. C'est sur les sujets que ça vise, en l'occurrence les personnes roms, mais aussi sur les gens qui sont en quelque sorte sur le chemin, c'est-à-dire les militants. Le chapitre de Serge Lichard me paraît important dans ce dispositif, et en particulier, ce qu'il décrivait bien, c'était combien cet engagement avait été coûteux. Bah, par exemple, ça lui a coûté d'être mis à la porte de la majorité municipale à l'ESO, une majorité socialiste, mais aussi ça lui a coûté ensuite d'être poursuivi par l'État au pénal pour avoir organisé une manifestation qui consistait à aligner sur le bord de la route les poubelles pour montrer le non-ramassage des poubelles, pour montrer que si on ne ramasse pas les poubelles, eh bien elles s'accumulent. Quand on voit un mur de 2 mètres de haut et 100 mètres de long, et qu'on se dit c'est ça qu'on laisse sur place dans ces bidonvilles, ça fait comprendre que ce qu'on voit d'habitude, c'est le résultat, c'est-à-dire des gens qui vivent salement. Là, ce que ça montre, c'est une politique. C'est-à-dire que pour arriver au résultat qui est qu'on voit des bidonvilles où s'amoncèlent des détritus, il a bien fallu qu'il y ait une action. Et cette action, c'est une inaction, c'est le fait de refuser de ramasser, c'est-à-dire de refuser de faire ce qu'on est censé faire. Les pouvoirs publics sont censés ramasser les ordures. La politique d'immigration, elle se joue d'abord aux frontières, donc c'est l'État. Mais les Roms, ils ont une propriété, les Roms au sens où j'en parle depuis le début, hein, Roumains, Bulgares en particulier, ils ont une propriété particulière, c'est qu'ils sont européens. Pourquoi traite-t-on les Roms encore plus mal que les Africains? Parce que les Africains, ils n'ont pas de droits en tant, ils ne sont pas citoyens européens. Donc, on peut les expulser. En revanche, les Roms, ils ont des droits. Donc si on veut s'en débarrasser, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on leur rend la vie invivable.
on leur rend la vie invivable, et comme ça, ils finiront bien par partir d'eux-mêmes librement. C'est que si on leur donnait des toilettes, si on leur ramassait leurs ordures, ils s'installeraient. Et donc, comme on ne veut pas qu'ils s'installent, eh bien, on va créer ces conditions. Le problème, bien sûr, c'est que leurs conditions de vie de départ sont très difficiles. D'une part, ils viennent de pays pauvres, il y a plus de 10% de la population roumaine qui est partie, mais il y en a un peu plus quand c'est les Roms, 12-13%, pourquoi? Parce que non seulement ils sont pauvres, mais en plus ils sont victimes de discrimination. Ça veut dire qu'il faut essayer de faire que leur vie soit encore plus difficile ici qu'elle ne l'est là-bas. Donc ça met la barre très haut. Donc rendre la vie invivable, c'est non pas malgré le fait qu'ils soient européens, mais parce qu'ils sont européens. Comment cette politique est-elle possible? Premièrement parce que l'Europe laisse faire, alors même que l'Europe a été construite contre l'héritage du nazisme. Donc, c'est-à-dire, du moment où vous acceptez les politiques néolibérales, on ne va pas vous embêter sur les détails tels que le traitement des étrangers, tels que le traitement des Roms, tels que toutes ces questions, tels que même les libertés publiques. Mais deuxièmement, l'efficacité de cette politique, c'est le fait de la déplacer à l'échelle locale. Ça veut dire que l'État délègue le travail, d'une part aux préfets, mais d'autre part aussi aux municipalités, ou bien aux conseils généraux, mais en particulier aux municipalités. Le fait que ça se passe au niveau local est très important. Pourquoi? Parce que ça permet que ça ne soit pas perçu comme un problème politique. C'est juste un problème de gestion. En fait, l'efficacité de la politique à l'égard des Roms repose sur le sentiment que ça n'est pas politique. On dépolitise. Donc, on a juste des pauvres en face de nous, et puis on a des poubelles, et puis on a des excréments partout, etc. On a à gérer ça. Personne ne se dit « j'ai un problème politique qui est dans quelle société je vis, qu'est-ce que je veux, etc. » Parce que comme vous le savez, que quand on donne un logement, c'est pour 3 nuits, pour une partie seulement des personnes qu'on expulse, très loin, à un endroit où ils ne peuvent pas faire à manger, à un endroit où ils ne peuvent pas faire leur lessive, etc., etc. Donc vous savez qu'en fait, c'est de la poudre aux yeux, c'est juste qu'en gros, pour qu'il y ait des journalistes qui disent qu'on a trouvé une solution de logement pour un certain nombre de gens. On a des politiques qui se jouent, mais un peu partout, avec des expulsions systématiques. Et les expulsions systématiques, à chaque fois, bien sûr, elles coûtent cher. Il serait beaucoup moins coûteux, et à court terme, et à moyen terme, et à long terme, de traiter les gens de manière humaine, parce que, après tout, si les enfants vont à l'école, eh bien, à long terme, il y a moins de chances que ce soit un problème social. Si on ramasse les ordures, il y a moins de chances qu'il y ait des maladies, etc. Donc, en fait, il serait moins coûteux de gérer humainement qu'il n'est coûteux de gérer de manière inhumaine. Donc, la rationalité économique n'a rien à voir avec tout ça. Le problème, c'est pour les riverains. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, c'est facile pour vous, les bobos, parce que les riverains, eux, pour eux, c'est très dur. Alors, je voudrais vous préciser un peu ce que ça veut dire « riverain ». Pourquoi est-ce que c'est devenu du langage politique? Parce que, au début des années 2000, Nicolas Sarkozy a lancé une offensive sur la prostitution, prostitution étrangère, en disant que ce qui était quand même gênant avec ces prostituées étrangères, c'est qu'elles gênent les riverains. Elles font du bruit, elles laissent traîner des préservatifs, et donc quand vous emmenez vos enfants à l'école, vous trébuchez sur ces préservatifs, c'est dégoûtant. Et en plus, elles sont étrangères. Les riverains, ça a été introduit comme catégorie du populisme des années 2000, parce que c'était près de chez vous. Ça évite de se poser, entre autres, la question de la classe sociale à laquelle appartiennent ces gens. Par exemple, la riveraine dont je parlais tout à l'heure, qui se plaignait que vraiment ces gens, ils ne crottent pas comme nous, eh bien, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était surtout embêtée parce que sa propriété risquait de baisser de valeur et qu'elle risquait de ne pas pouvoir la vendre pour 1,5 million d'euros. Donc elle ne représentait pas exactement ce prolétariat misérable dont on nous parle et qui pâtirait de la proximité des Roms. Si des bobos sont hostiles aux Roms, on ne les appelle pas bobos, on les appelle riverains. Est-ce que vous voyez des gens qui viennent aider les Roms? Très souvent, ce sont des voisins. C'est-à-dire ceux qui vont aider leurs gamins à aller à l'école, qui vont les aider à remplir des papiers, qui vont faire des démarches, qui vont leur apporter du linge. Vous ne les entendez jamais appeler voisins, vous ne les entendez jamais appeler riverains, vous les entendez appeler militants. Donc c'est ça qu'on a essayé de démonter dans ce livre, c'est qu'on nous raconte une histoire et on finit par y croire, parce que si vous êtes journaliste et que vous arrivez à un endroit, vous allez reconnaître les riverains, puisque ce sont ceux qui protestent contre les Roms. Et si vous voyez des voisins solidaires, vous les appellerez militants. La grille de lecture, elle est déjà là. Et cette grille de lecture, elle revient à dire, c'est pas un problème politique. Les seuls qui font de la politique, c'est les militants, c'est-à-dire ceux qui défendent les Roms.
Portons un discours auprès de ces représentants de la préfecture et du département.
Intervenant à la tribune à côté d'Éric Fassin.
Avec aussi, je dois le reconnaître,
Alain Denoyel, adjoint à l'action sociale de la mairie de Grenoble.
Situations qui ne sont pas faciles en tant qu'élu municipal.
Et vice-président du CCAS.
On est effectivement à la jonction entre deux mondes, entre deux volontés, celle de faire reconnaître les droits des personnes et celle de porter un message positif, parce que c'est ce que nous pensons effectivement de ces personnes, et en même temps d'avoir d'agir, de devoir agir sur des situations qui sont difficiles. Je veux parler effectivement des campements, des squats, que en tant que représentant effectivement d'une ville, de temps en temps, parfois de manière régulière, nous sommes amenés à devoir demander l'évacuation. Maintenant, effectivement, tous ces dispositifs, elles ne répondent pas à l'ensemble du besoin qui est sur le territoire, et donc il nous faut en permanence se rapprocher, dire ce que nous pensons devoir être fait auprès des autorités responsables, typiquement que sont l'État et le département. Le redire, le re-redire. Redire un élément, hein, c'était grosso modo 20 mètres de large en bordure d'une avenue de trois voies, et quasiment tous les événements qu'on pouvait craindre ont eu lieu. Un enfant renversé, un enfant brûlé sur le lieu, je parle juste de l'enfant renversé du fait de la proximité de la route. Donc effectivement, on demande au préfet, accompagnez-nous sur cette situation.
Quand M. Donoël dit on était dans le devoir d'agir, M. Donoël dit qu'il n'y avait pas de moyens. Mais alors s'il n'y a pas de moyens, ne faites rien plutôt que de faire pire. Une autre question à M. Donoël, c'était quoi l'expulsion? Puisqu'il n'y avait pas de moyens, il y a quand même une expulsion. À la super cher. C'était quoi l'expulsion?
Mais par contre, je pense que vous allez mettre les pieds dans une fourmilière, peut-être sans vous en rendre compte en venant ici, en vous asseyant aux côtés de M. Denoyel. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que vous souhaitiez particulièrement sur ce qui s'est passé cet été. Ça fait longtemps qu'il y a des politiques racistes au niveau de la Grenoble. Ça s'est arrêté depuis la nouvelle municipalité, ça continue comme avant. Moi, je ne vois pas beaucoup de différence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet été, c'est un campement de 400 personnes, mais aussi effectué. Ce campement, il ne met pas de mieux pas. Et Mme Godot, vous qui êtes à la métropole, et M. Denoyel, vous êtes à la mairie de Grenoble, vous savez aussi d'où viennent ces gens qui étaient présents sur ce campement. Ils viennent d'expulsion que vous avez fait précédemment. En gros, moi je vivais avec Chiron dans une maison, je vivais avec 80 personnes qui se reconnaissaient comme étant Roms. Cette maison et ce campement, ils ont été expulsés. Ces 80 personnes qui se sont déplacées jusqu'à ce campement et son âme, ça a été expulsé par une collaboration entre la métropole, la mairie. Vous avez expulsé toutes les personnes qui se sont trouvées à l'esprit. Bien sûr, ça grossit les campements. Dans ce campement, personne n'aurait été vivre. Personne n'aurait été vivre auprès d'une quatre voies. Personne n'aurait été vivre dans ces conditions-là. Les autres campements qui étaient présents il y a un an, deux ans, trois ans sur Grenoble étaient largement plus vivables. C'était et sur un c'était. Ça, tout le monde le sait, vous aussi, les gens qui vivaient le savaient. C'est pas par volonté que les gens se sont retrouvés sur ce campement. Par contre, vous pouvez limiter quelques trucs en force de racisme ambiant qui s'est développé. Vous avez voulu les créer en refusant par la CDP poubelles en refusant de rajouter des toilettes, mais il y avait deux toilettes pour 400 personnes. J'ai eu un rendez-vous avec vous, monsieur Denoyel, on s'est vu même à plus qu'un rendez-vous, à deux ou trois rendez-vous, on a parlé des mêmes choses, on a parlé des toilettes, on a parlé des poubelles, on a parlé de scolarisation. Les voisins craignaient que les enfants n'aient pas de scolarité, que les scolarisations étaient données en moyenne de Grenoble. Les voisins craignaient du manque de poubelles qui s'accumulaient, c'est ce qui refusait la suite de peine. Les voisins se plaignaient qu'il y avait dans les cas de la neige partout.
Est-ce qu'il est possible de laisser la parole à d'autres personnes?
Juste une fois l'intervention de M. Passin, très bien. Le nom de M. Denoyel, comment vous avez été à rester à côté et à répondre de la manière dont vous le faites. Vous êtes visé, vous êtes directement visé par le discours qui a été dit avant. Vous voulez sentir ou non?
Donc d'avoir ce problème, cette question Rome. Ben, une première chose, c'est que si on ne peut pas régler le problème de 15 000 pauvres, on ne va pas régler le problème de millions de pauvres en France. Parce que qu'est-ce qu'on nous dit tout le temps? On nous dit, ben, écoutez, on n'arrive déjà pas à aider les pauvres en France, on ne va pas aider les pauvres étrangers. Et ça marche dans l'autre sens. C'est qu'en fait, c'est à ça que servent les Roms, c'est à nous dire qu'on ne va certainement pas régler les problèmes de logement, par exemple. Donc, c'est une première chose. Mais une deuxième chose, c'est que si c'est une politique de la race, eh bien ça sert à dire à tout le monde, quand même, par rapport à eux, vous êtes blanc. Vous êtes peut-être arabe, vous êtes peut-être noir, vous êtes peut-être blanc, mais en tout cas, vous n'êtes pas rome. Donc vous êtes du bon côté de la barrière raciale. La race, ça sert à tracer des frontières entre les gens. On le fait avec les poubelles, on le fait avec les toilettes, on le fait avec l'école. On trace des frontières qui font qu'on n'est plus les mêmes. Donc cette politique de la race, elle a une fonction. C'est premièrement de nous dire « vous valez mieux qu'eux ». Et ça, dans un monde néolibéral, c'est très important, parce que dans un monde néolibéral, nous valons pas simplement économiquement, mais nous valons par notre capital humain. Et ce qu'on nous explique, c'est qu'eux, ils n'ont pas de capital humain. On nous explique qu'économiquement, ils ne valent rien, qu'ils n'ont pas de culture, ce sont juste des gens incultes. Donc les renvoyer au statut de vauriens, c'est une manière de dire que nous, par comparaison, on vaut quelque chose. C'est ça la politique de la race. Il ne faudrait pas croire que ça ne concerne que les Roms. Rendre la vie invivable, c'est ce qui se passe aussi à Calais, par exemple. À Calais, ce ne sont pas des Roms, mais on crée à peu près les mêmes conditions. C'est-à-dire, on veut qu'ils finissent par être découragés de venir là. Cette politique de dissuasion est relativement efficace. Mais évidemment, ça peut se répandre. C'est-à-dire que ce que nous savons, c'est que si nous basculons économiquement, nous pouvons nous retrouver du mauvais côté, nous aussi. Parce que dans les bidonvilles, il n'y a pas que des Roms. Il n'y a pas que des Roms qui mendient dans les rues. Donc la frontière de la précarité, elle n'est pas étanche. Les Roms, ils servent aussi à ça. Ce n'est pas simplement de nous rassurer, heureusement, vous n'êtes pas des Roms. C'est aussi de nous inquiéter, attention de ne pas devenir comme eux.
Je pense que la seule solution, c'est de faire de la politique.
Le fait, quand on demande une expulsion, on participe de fait à la discrimination.
Donc je pense que la seule solution, c'est de faire de la politique.
Here we go, go, you better listen. The BBB train riding on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some up. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to your ear, no complications. As yalla yalla, come on, give me some up. Go! We'll be right back.
Et vous êtes toujours sur News FM 101.2 dans l'émission Micro-ondes, émission qui vous tient à contre-courant. Et si vous voulez encore nous appeler, il vous reste quelques minutes, le numéro de téléphone 04 56 14 23 54.
Et donc, je pense qu'il faut faire de la politique. C'est un peu le résumé de Éric Fassin. N'hésitez pas à appeler. Et puis surtout, il y a les brèves là qui arrivent. Donc, c'est ça. Donc, c'est le moment. Vous avez des événements, vous avez des choses à faire. C'est le moment. Appelez. Je commence alors, du coup ?
Ouais, on va passer donc, du coup, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dernièrement au mois de janvier avant de passer aux brèves. Donc, je te donne la parole, Jeanne.
Ah ben, du coup, c'est ça le récapitulatif de janvier, en fait. Je crois que c'est les brèves, ouais, c'est ça. C'est le... Comment tu dis, Yvon ?
Eh bien, je sais pas, il y a quelqu'un qui a marqué le bonheur de janvier.
Ah ouais.
Bon, je pense que c'est de la plaisanterie, un petit peu.
Oui, ça doit être... Oui, ça
le bonheur nauséabond, quoi, ouais.
Ben ouais. Le mois de janvier, c'était quand même bien chargé. Ça n'a pas été réjouissant au niveau de l'actualité politique. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir dit ça dans ma vie, en fait, que l'actualité politique avait été réjouissante. Mais bon, le mois de janvier n'était pas terrible. Donc, on a décidé de faire ce petit tour du mois de janvier au niveau national, au niveau local. Et notamment sur les questions de restriction de liberté de toutes et tous, sur la répression des migrants, et ensuite on fera le point. Enfin, à chaque fois quand même, on fera un petit point sur toutes les résistances qui se mettent en place, parce qu'à chaque fois il y a de la merde, il y a quand même des choses bien qui arrivent. Et voilà. Donc bon, Yvon, parmi toutes les saloperies, tu veux commencer par laquelle ?
Bah écoutez. Hein. En premier lieu, j'ai retenu ce qu'on appelle un fait divers, qui n'en est pas tout à fait un, puisque ça éclaire un peu le climat actuel, quand même. Le 15 janvier dernier, sous la pression des policiers qui avaient rempli la salle d'audience, la justice acquitte un policier qui a tué un cambrioleur d'une balle dans le dos. Au moment où le gouvernement veut, dans le cadre de sa loi d'urgence, élargir la notion de légitime défense. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin d'être menacé pour tirer. Hein. Bon, je parle des policiers parce que pour Jacqueline Sauvage, elle a été condamnée par deux fois aux assises. Hein. Heureusement, il y a eu un autre procès à Grenoble dans les mêmes conditions, dont le résultat a été avant-hier et elle a pris que du sursis. Enfin, que, entre guillemets. Mmh. Mais enfin, on voit que les choses peut-être évoluent un petit peu.
Peut-être.
Par contre... Cette balle dans le dos, ben, ça rejoint les crimes de la police. Hein.
Ben oui. Et je crois que Jacqueline Sauvage, elle s'est pris 5 ans, non, c'est ça ? 5 ans sur les 10, au lieu de 10. Hein.
10 ans, puis elle a bénéficié d'une grâce présidentielle.
Bon, il faut dire que par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut... En ce moment, il y a une affaire similaire qui est passée aux assises, oui, c'est ça ? C'est toujours côté justice. Hein.
Côté justice, il y a aussi une chose qui me paraît tout à fait dans l'esprit de l'état d'urgence. Ce sont les syndicalistes de la CGT qui, sous prétexte d'avoir retenu, c'est vraiment dramatique, deux dirigeants de leur société, la société Goodyear qui les met à la porte. Ça compte pas. Mais par contre, le fait que les dirigeants aient été retenus pendant 30 heures, eh bien, on les a condamnés à de la prison ferme. Et ce qu'il faut noter, c'est sur réquisition du parquet, hein, c'est-à-dire du ministère de la Justice. Et à l'époque, on aime peut-être bien Taubira sur certains aspects, mais là, c'était quand même elle qui était au ministère. Donc, ils ont retenu les dirigeants. Et du coup, il y a eu une réaction au niveau national des grèves, des manifestations qui se répercutent très souvent. Et notamment, à Grenoble, il y en a eu deux. On voit que les gens ils sont en train de ne pas accepter d'être muselés au moment même où on attaque leurs droits.
Mais en tout cas, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est fou de défendre collectivement ses droits. C'est surtout ça, en fait. C'est qu'à chaque fois qu'il y a des mouvements collectifs sur la défense des droits, c'est là qu'on est attaqué. Donc, ce qu'on appelait, en fait, le dialogue social entre les salariés et le grand patronat, ben, aujourd'hui, en fait, c'est plus... Enfin, c'était à l'époque... On disait que c'était juste une affaire de communication. Hein. Il fallait que les syndicats et autres communiquent là-dessus. Aujourd'hui, on en voit la justice. Il n'y a même plus cette question d'entretenir un dialogue social avec une pseudo-dimension de communication. Les choses sont claires, on en voit la justice. Quoi.
Et c'est d'autant plus violent que Goodyear, pour ne parler que de lui, mais ça peut se répéter à l'infini, c'est une entreprise internationale qui gagne beaucoup d'argent et qui veut en gagner plus en licenciant. Donc on peut peut-être parler aussi, au mois de janvier toujours...
Une autre saloperie, ouais.
Ouais, ben bah ouais, désolé, j'essaie de faire un petit agenda, ouais. La justice qui a amplifié sa logique d'expulsion. Par exemple, un peu partout, mais on a parlé un petit peu qu'il y avait 60%, un peu plus de 60% des gens dans les camps qui avaient été expulsés au moins une fois dans l'année dernière. À la place de la République pour être visible, des personnes se sont installées avec des tentes pour réclamer leurs droits. Il y a des soutiens qui viennent régulièrement brasser autour d'eux. Eh bien, à chaque fois, il y a des expulsions, des gardes à vue, des remises à la rue, des destructions d'affaires personnelles directement envoyées à la benne.
Oui, par rapport à ces expulsions, je crois qu'il y a un petit rapport, un rapport de la LDH et de la European Rights Center, qui dénombre à peu près, je crois, à ce sujet, 11 000 personnes évacuées sur 111 lieux de vie en 2015. Ça fait 60% de personnes qui ont été évacuées de bidonville sur la seule année de 2015. Donc quand on voit déjà ce qui s'est passé le mois de janvier et toutes les lois, l'état d'urgence, tous ces trucs, la suppression des aides, etc., je pense que ça nous laisse présager des belles choses encore.
Et ces expulsions viennent que renforcer la politique raciale d'État et qui concerne une majorité de personnes qui se déclarent roms ou qui sont, vu d'extérieur, présumées roms. Et à ce sujet, la Voix des Roms, qui est une association, avait attenté un procès à Manuel Valls pour ses propos de 2013. Bon, la justice va passer. Des propos discriminants envers les roms. Ce procès est resté assez sous silence au niveau des médias. Et quant à la justice, ben, elle a blanchi Valls récemment.
Voilà. Ben, on vous renvoie aussi à l'article d'Éric Fassin, qui a été, parce que c'est à peu près le seul à en avoir parlé à ce moment-là, de ce procès. Donc un article dans Le Monde en octobre dernier sur ce sujet. Et avant de faire un petit tour du côté de ce qui se passe plutôt en local, de ce qui s'est passé à Grenoble, on voulait pas faire l'impasse sur ce qui s'était passé à Calais tout le mois de janvier.
Oui, parce que je pense qu'il faudra qu'on y revienne, parce qu'à Calais, régulièrement, il y a des opérations policières très violentes qui ont lieu régulièrement, en pleine nuit, avec des canons à eau, des lacrymos, des grenades, destruction de cabanes, intervention de milices privées. Alors on pense que c'est des fachos, mais on est presque sûr. Il faut voir les vidéos sur Internet, hein, qui sont impressionnantes. Et là, il y a des manifestations de soutien. Mais aujourd'hui, elles sont interdites sous prétexte que des fachos risqueraient aussi d'arriver. Donc on met sur le même plan les fachos qui viennent agresser les étrangers et les gens qui viennent les soutenir. Voilà. Donc c'est super cool. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, les fachos, c'est en fait sous l'égide de Pegida, qui sont vraiment des fachos, des néo-nazis. Voilà. Et donc, voilà, interdit de venir soutenir maintenant les migrants.
Ouais, après, moi, je voulais faire un petit point sur les mouvements de manière générale, NDDL et tout, mais je vois qu'on n'a vraiment pas le temps. Du coup, on devait avoir un camarade qui devait nous appeler aujourd'hui. Et ben, faudra qu'il rappelle s'il veut nous parler du mouvement NDDL, parce que même s'il s'est passé des choses en janvier, ben voilà. Du coup, je sais qu'il s'est passé plein de trucs, mais voilà. On enchaîne peut-être sur le local. En tout cas, ou juste un petit point sur quand même tout ce qui s'est passé en national et en local. Comme ça, ça fait un tout sur toutes les manifestations sur l'état d'urgence, en fait. Hein.
Oui.
Il y a eu des manifestations, des meetings sur l'état d'urgence. Ça mobilisait des collectifs même qui n'étaient pas, qui se bougeaient pas il y a un mois, qui aujourd'hui y viennent. Enfin, ça s'amplifie. Donc autour de ça.
On va faire peut-être l'impasse aujourd'hui sur l'état d'urgence qui est en train d'évoluer dans ses principes.
Ouais.
Je pense qu'il faudra qu'on fasse une émission parce que c'est un truc extrêmement important. Mais là, on va pas avoir le temps.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? À Grenoble, en fait, à Grenoble, ouais. On vous avait parlé du camp Flaubert. Bon, il y a eu pas mal de choses dans la même lignée. Soaz, t'avais quelque chose au sujet du 113, peut-être? Ah non, c'est pas Soaz, c'est Baptiste.
Oh ben, je peux y aller, moi, oui.
C'est Yvon, finalement. Allez. Ben, voilà, allez. Le 113, qu'est-ce qui s'est passé?
Je veux parler dans la radio. Voilà. Ouais. Et c'est bon, je rigole, mais c'est pas du tout drôle. Parce que c'est au 113 Libération, il y a des personnes qui s'étaient installées à la suite d'une première expulsion sur le camp Esmonin. Il y a 60 personnes actuellement. Et la préfecture a fait pression sur les propriétaires, en l'occurrence l'église des Mormons, l'église de Jésus-Christ du Saint des derniers jours, pour qu'ils entament une procédure d'expulsion. Les Mormons voulaient raser la maison et veulent construire une belle église. Bon, très bien. Au départ, les Mormons semblaient prêts à laisser les familles tranquilles un moment et leur avaient même apporté un peu d'aide. Mais l'expulsion a été accélérée. Elle était même prévue jeudi dernier, dès 6h du matin. Et là, il y a eu une très importante mobilisation avec de nombreuses associations à 6h du matin. Il y avait les médias qui étaient aussi présents, merci à eux, hein, notamment de télé. Et la préfecture, là, provisoirement ou non, déprogrammée. Il faut dire qu'on est en plein hiver et c'était quand même, à ma connaissance personnelle, la première fois que maintenant on expulsait massivement en plein hiver.
À savoir du coup juste, vu qu'on est sur l'actu du 113, voilà, en effet, il y a de nouveau eu une mobilisation ce matin pour aller rencontrer du coup l'église mormone qui tenait son culte. Et l'évêque, en l'occurrence mormon de la paroisse, nous a dit que vous vous rendez pas compte de tout ce que je fais déjà pour ces familles, et je fais déjà beaucoup, j'appelle tous les jours, mais on ne peut rien faire. Enfin voilà, en tout cas, ils pouvaient faire deux choses et on espère bien qu'ils vont le faire assez rapidement. C'est d'une part demander à la mairie qu'elle n'expulse pas tout de suite et d'autre part refuser de payer le vigile, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que, et non pas, c'est pas la mairie, pardon, mais c'est la préfecture a demandé à l'église mormone qu'elle paye un vigile pour empêcher toute réinstallation. Et du coup, si cette église aujourd'hui ne paye pas le vigile, eh ben, il ne devrait pas y avoir d'expulsion avant la date qui était prévue et qui était promise sur le papier, qui était celle du début du mois d'avril. Ouais, donc, à savoir si vous connaissez quelqu'un de l'église mormone, n'hésitez pas à les appeler et alors à mettre la pression sur eux.
Même si vous ne les connaissez pas.
Oui, ils ont des Facebook, tout ça, quoi. Après, il n'y a pas que les mormons qui expulsent. Hein. Si on pouvait revenir, quand même, il y a les mairies, en fait, expulsent. La mairie de Grenoble a tenté des procès, justement, au courant de janvier sur différents squats. Un procès sur un squat qu'on connaît bien en centre-ville. C'est quand même un bâtiment qui appartient à la mairie de Grenoble. C'est eux qui mettent le procès, c'est eux qui sont prêts à virer les gens. On avait ouvert, il avait été ouvert il y a plus d'un an maintenant avec le collectif Patate Chaude, hébergement, logement et des habitants qui avaient été mis à la rue. Il y avait eu toute une ouverture d'un squat Robespierre qui est du coup dans le quartier Tesserre. Et les personnes, ils sont encore dans cette maison. Ce qui devait être fait au départ avec la mairie, puis la métro, c'était plutôt une convention avec les habitants. Il s'avère que cette convention, on n'en a jamais vu la couleur. Les habitants sont toujours dans cette maison sans avoir une adresse fixe. Et que là même, il y a des choses qui vont se passer où les habitants, clairement, ne savent vraiment pas ce qu'ils vont faire et s'ils vont vraiment rester dans cette maison bientôt. Enfin, s'ils vont y rester, on leur promet un dossier à la mousse, sachant que la mousse, donc ce dispositif dédié pour les personnes roms,
pour
l'insertion notamment, en fait, c'est quoi, 12 familles. Donc, quand on sait qu'il y a à peu près, je ne sais pas combien de familles, hein, c'est des centaines qui pourraient y prétendre. 1900 personnes à la rue. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas, je voulais juste rappeler ça, il n'y a pas, au mois de janvier, il n'y a pas que les Mormons qui ont lancé des choses pour expulser, c'est aussi les mairies et la mairie de Grenoble notamment.
Et alors, le conseil général qui s'appelle départemental maintenant n'est pas en reste, parce qu'à peine élu, il a mis 11% de baisse de son budget destiné au social pour en consacrer davantage d'ailleurs au BTP. Bon, très bien, c'est un choix de politique. Donc, moins d'éducateurs de rue, moins d'aides d'urgence. Alors, les chiffres sont éloquents. Prenons l'hébergement d'urgence, moins de 100 000 euros. Fonds de solidarité au logement, moins 500 000 euros. Insertion des jeunes, moins 1 million d'euros. Subvention aux associations, moins 200 000 euros. Insertion sociale, moins 200 000 euros. Tout ça, c'est pas grand-chose, c'est 1 pour 1000 du budget du Conseil général, mais ça représente une orientation très claire au niveau, de la politique. Là, je vois que je vais prendre le relais parce que
pardon,
t'es plus là.
Qu'est-ce qui se passe, je sais pas, fou rire, ça arrive.
D'accord. Alors, à Grenoble aussi, il y a eu de nombreuses associations, collectifs, syndicats, qui étaient... Là, on fait des gestes dans tous les sens, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, mais ça ne fait rien d'être court. Donc, je ne sais pas sur quoi tabler. Sinon, que, bon, ben, on va peut-être passer directement à l'agenda. Peut-être, Soise, tu auras quelque chose à dire avant.
Oui, je vais essayer de faire vite, mais on voulait aussi revenir sur les agressions sexuelles, ou qu'on pourrait dire sexualisées, parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec du sexe, qui ont été commises la nuit du 31 décembre à Cologne, en Allemagne. Et l'utilisation qui en est faite, notamment dans les médias et par les politiques. Bon, alors, ça soulève plusieurs questions, notamment la question habituelle de que faisaient les gens autour pendant ce temps-là, mais bon, ça, on va pas s'arrêter là-dessus. Et aussi, bah, la question qui est plus inquiétante et qui est une question qui est, voilà, dans l'histoire depuis très longtemps, qui est l'instrumentalisation du féminisme et des femmes à des fins racistes. Et on sait que c'est ce genre d'argument qui a justifié la colonisation, qui a justifié tout un tas de guerres encore récemment. Et du coup, il faut vraiment être vigilant et vigilante sur ce genre d'utilisation médiatique de faits comme ceux-ci, qui sont bien sûr très graves, mais voilà. Donc il y a toujours cette idée qu'en fait, il va falloir civiliser des barbares, qu'il y a des personnes qui sont, comment dire, comme par nature, hein, une vision très essentialiste de personnes qui seraient des violeurs, des terroristes. En ce moment, c'est vraiment l'image qu'on crée du migrant. On avait le terroriste, là, le violeur, on en remet une couche. Et je vous conseillerais, pour avoir plus une analyse un peu plus creusée là-dessus, un texte qu'on peut trouver sur le site Crêpe Georgette. Et le texte appelle « Les agressions sexuelles du Nouvel An, des crimes sexistes à l'instrumentalisation raciste ». Je vais juste vous lire une petite citation de ce texte, qui dit « Là où les Français commettraient des conneries, des crimes passionnels, des dérapages sexuels, des viols collectifs, les racisés commettraient des tournantes, des crimes d'honneur et des actes barbares, témoignant de leur culture par essence profondément sexiste ». Et cette idée, on la retrouve là parce que, donc, suite à ça, à Cologne, il y a le carnaval, donc gros événement populaire, à nouveau plein de gens dans la rue et tout. Et il y a une journaliste qui couvrait l'info de la télé belge, RTBF, qui, pendant qu'elle parle, en gros, il y a un gars qui mime un truc super obscène derrière elle, et puis il y en a d'autres qui lui sautent dessus, qui la touchent, hors antenne et aussi devant la caméra. Et les dirigeants de la chaîne, ils ont dit quelque chose de très intéressant qui va vraiment dans cette idée-là, c'est l'incident n'a pas de lien avec ce qui s'est produit dans la même ville le 31 décembre. Le non-respect des femmes semble ici partagé par les hommes de tous horizons. Donc c'est comme si, en fonction de qui commet les violences, ça change la nature même de ces agressions, quoi. Là, on est dans complètement autre chose. Et bon, bah, faut rappeler qu'on n'a pas attendu en Allemagne comme ailleurs l'arrivée récente des réfugiés pour subir des violences sexistes en tant que femmes, hein. Donc voilà, on se rappelle qu'en Allemagne, il y a 7300 viols déclarés par an, et en gros, c'est 10% des viols qui sont déclarés en général, que la plupart des viols se font dans le foyer, 50% c'est les partenaires, 10% c'est dans la famille. Et bon, voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus. Mais juste revenir sur aussi la réaction de certains hommes, notamment d'extrême droite, qui disaient vouloir nettoyer la ville. Du coup, on fait des ratonnades arbitraires sur des hommes racisés. Donc, ça fait assez rigoler, parce que si l'extrême droite était les défenseurs des droits des femmes, je pense que ça se saurait. Et que, voilà, vu les chiffres qu'on a, si vous voulez protéger les femmes allemandes, faudrait d'abord s'attaquer à leurs maris, qui sont sans doute eux-mêmes, d'ailleurs, parce que c'est plutôt eux qui commettent les violences. Et qu'on sait que quand on subit des violences sexistes, avoir des hommes qui réutilisent cette violence virile pour nous protéger, en général, ça aide pas. Et voilà, pour finir, je vais juste vous citer, il y a un hashtag, je crois que ça s'appelle comme ça, moi j'y connais rien, hein, mais bon. Oui, elles ont un site sur internet aussi qui s'appelle Ausnahmslos. Et ouais, je crois que c'est ça le nom. Bon, Ausnahmslos. Et c'est un groupe de femmes blanches et racisées allemandes qui écrivent plein de choses là-dessus, et c'est super intéressant. Voilà.
Je leur tourne juste une petite page d'agenda. Est-ce que tu avais des rendez-vous un peu, Jeanne, par rapport à l'état d'urgence, je crois?
Alors là, le premier que j'ai en tête, là, c'est juste celui de cet après-midi. Vous m'avez effectivement un petit peu perdue. Alors, je reviens. Donc, cet après-midi, vous avez le temps de faire une petite sieste, en fait, avant la fin de l'émission. Parce que de 16h à 22h au Palais des Sports de Grenoble, il y a les 6h pour nos libertés, avec la participation et le soutien de Mediapart, donc à Grenoble. Donc, c'est organisé par... Enfin, il y a des dizaines d'associations, des collectifs, des syndicats, des personnalités qui se mobiliseront contre l'état d'urgence, contre aussi l'extension de la déchéance de nationalité et contre la mise en place d'un régime d'exception. Voilà.
Ils ont appelé ça, d'ailleurs, dans un article récent de Mediapart, Grenoble, bon élève de l'état d'urgence, parce qu'il faut dire qu'en ce moment, ça y va.
Pour enchaîner sur le deuxième rendez-vous qui sera donc ce mardi 9 février à 18h30, une conférence débat tenue par des avocats et des personnes aussi du coup de la Ligue des droits de l'homme sur l'état d'urgence, une nécessité. Voilà. Donc ce sera à Grenoble, à la Maison des avocats.
Voilà.
Je continue encore sur les petits rendez-vous. Du coup, juste un appel à manifester. On n'a pas pu parler de l'actualité des luttes de Notre-Dame-des-Landes, mais en tout cas, il y a un appel à manifester à Nantes. Et dans la ZAD, du coup, le 27 février prochain, il y a des bus qui vont être affrétés un peu de partout en France, probablement de Lyon. Donc si vous êtes intéressé, ce sera samedi 27 février. Juste le lendemain, dimanche 28 février, a priori ce sera le dimanche, peut-être ce sera décalé le samedi 27, mais en tout cas, ne ratez pas ce rassemblement, une marche donc des mal logés, ici pour dénoncer à la fois la hausse des loyers, la hausse des charges sociales, le non-respect de la trêve hivernale et puis l'expulsion des campements, enfin tout un tas de revendications qui tiennent au logement et qui justement visent non pas à mettre les pauvres en concurrence les uns entre les autres, mais bien à les rassembler derrière un même message.
Et je crois qu'on n'a pas parlé avant ça de ce qui se passe le 26 janvier. Alors moi, j'ai eu un moment d'absence avec Jeannette, elle m'a entraînée avec elle. Donc voilà, corrigez-moi si je me trompe. À la BAF, où il va y avoir... Donc la BAF, c'est un centre social autogéré qui se trouve deux chemins des Alpins. On en a déjà parlé parce qu'il y a des permanences pour l'autodéfense et l'accès au droit qui se passent aussi tous les jeudis après-midi. Et là, du coup, le 26 janvier, il va y avoir une ou des personnes qui font partie du No Border, qui est donc des militants qui se bougent contre les frontières et en soutien aux migrants, qui sera là pour une discussion et peut-être y aura une projection aussi. J'ai pas encore énormément d'infos, mais vous pourrez retrouver tout ça sur le site de la BAF et sur Indy Media.
Bon, on a peu de temps et beaucoup de choses à dire quand même. Donc sur l'agenda de janvier, il y a aussi sur Israël le thème entre crise économique et politique sécuritaire, l'impact du BDS, c'est-à-dire boycott des investissements, sanctions sur la société israélienne, avec Shir Even, économiste israélien et soutien de plusieurs associations et partis. Donc c'est mercredi 10 à 20h à la Maison des associations. Et d'autre part, à partir de début mars, Sortir du colonialisme organise comme tous les ans une semaine anticoloniale qui dure en fait 15 jours. Différentes associations et collectifs mettent ensemble leur énergie autour du lien plus actuel que jamais entre racisme et néocolonialisme. Par exemple, il y aura Vérité Justice pour Ali Ziri, tué par la police, on en a parlé. Il y aura aussi Saïd Bouamama sur la place des racisés dans les milieux militants. Mea culpa. Bref, des thèmes qui poussent à la réflexion. Et ça se passe à Paris, Marseille, Bordeaux et d'autres villes. Programme complet sur le site de Sortir du colonialisme.
Et merci à une auditrice très attentive. En effet, ce n'est pas du tout le 26 janvier à la BAF, puisque sinon, il faudrait remonter dans le temps, ce ne serait pas pratique. C'est donc le 26 février.
Donc, 26 février, c'est passé, non?
Non, 26 février, 26 janvier, ah, c'était passé.
Non, on va plutôt annoncer février. Des choses pas encore passées dans l'agenda. C'est plus pratique.
Pardon.
Voilà, du coup, simplement pour terminer, on annonce un peu comme d'habitude de nos émissions qu'on aime. Les Nuits du Bled ce soir.
Avec Mohamed. Je n'ai plus l'heure en tête. 19h21h, non?
19h21h. Et puis, bien sûr, Parloir Libre, l'émission du jeudi. Et on en profite justement pour remercier Perrine qui est venue nous filer un petit coup de main à la technique. Voilà, super sympa de
Merci
nous avoir dépanné.
Et puis, annoncer quand même le thème qu'on a prévu. Excuse-moi, là. Pour la prochaine fois, savoir l'état d'urgence et l'islamophobie.
Ok, merci beaucoup. On se quitte du coup sur une...
Ouais, merci, c'était chouette d'être avec vous. Et puis nous, on se retrouvera à l'antenne de Parloir Libre jeudi 18 février de 21h à 22h. N'hésitez pas à nous appeler aussi au 04 56 14 23 54.
Et
super, merci. Et puis à bientôt. Voilà.
Le 6 mars.
présence urticante et disons odorante.
Tout comme ton PC marche pas si t'insères pas la dans le CD-ROM. Au PC ils se fâchent si tu leur parles d'insérer des roms. Car si l'on fait les sommes des bouches du Rhône à l'Essonne, des roms que les policiers somment de se barrer, ça en fait des tonnes. Si ça n'étonne plus personne, c'est que c'était des roms. Même le PC était bété, ne sait si c'est des hommes. Que ça les désole au PC de les voir fouler des sols dont ils estiment qu'ils les envahissent comme autant de fous et folles. À bonne école, Gilles Pouxup dans le sens de la vague. Le maire de la Courneuve a même le sens de la blague. J'en veux pour preuve le motif auquel il les alpague, qu'ils en tout pleuvent, déplorant que ce ne soit l'idéal cadre de vie que celui auquel ils furent réduits pour passer leurs jours et nuits. Mieux vaut encore d'après lui, rue et pluie, car c'est sous des trompes d'eau et dans leur dos qu'il les fit quitter leur dos, missiles les mettant face au défi de trouver un abri sans aide d'ici les prochaines nuits, laissant familles et enfants dehors, lui rentrant chez lui. Dans son douillet lit de la gueule du monde, il se fout, même si ses agissements ôtent à ses immenses mensonges tout crédit. Dur de croire en effet que c'est par souci pour eux qu'il les prive du peu qu'ils avaient, même pourri, même poreux. Un toit vaut toujours mieux que de toi tu auras, ou que toi tu n'auras rien et mourras sous peu. Pour peu que t'es pas honteux, réfugié, il budget exigé pour te payer une nuit d'hôtel, battait crugé, obligé, obstiné, opprimé, dormir près de la mairie. Mais t'as saisi qu'ils finiront par t'expulser sans venir s'excuser. Et même si c'est durcé, la vie, ta vie, à mon avis, a de quoi être médusé. Une vie passée à fuir, passée à aller voir te nuire, voir ses années à irrémédiablement. Tu es usé.
Les Roms ont vocation à rester dans leur pays et à s'y intégrer. Là-bas, la France aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne peut pas accueillir, comme l'avait dit un ancien Premier ministre, toute la misère du monde et de l'Europe.
Ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres et qui sont évidemment en confrontation.
Il y a toujours eu une peur du gitan, une peur du voleur.
Il faut lutter aussi contre cette délinquance. Ces campements provoquent de la mendicité et aussi des vols.
Vous démantèlerez tous les campements.
Il faut démanteler tous les campements. Nous ne sommes pas là pour accueillir ces populations.
Tout comme tu fais une TS rangée Foxconn, le chef te dégomme. Au PS, il déteste que l'Hexagone accueille des Roms. C'est ainsi que Valls résonne. Lui qui, pour le coup, a dit que les Roms devaient rentrer en Roumanie. C'est de cela qu'il les somme. C'est une drôle de manie qu'ils ont de les chasser partout où ils arrivent, tout en déplorant de les voir se déplacer. En critiquant leur instabilité comme s'ils l'avaient souhaité, ils auraient pu faciliter leur sédentarité. En vérité, ont décidé de les priver de toutes. De les virer, de les river, à dévirer, d'une date dérivée, à se faire invectiver par les riverains, motivés par fait de les voir forcer de tirer, vite et loin, de quitter le coin. Oui, c'est bien les voisins qui sont venus hurler devant le portail, les injurier, les insulter, ce jusqu'à ce qu'ils sortent aille, se faire voir ailleurs qu'à Saint-Martin d'air, il ne manque pas d'air. Ici, c'est pas le cirque plein d'air qu'ils aillent dormir sous un lampadaire, sans dire les habitants, insistants, racistants, sommes militants pour qu'on humilite en drogue vue comme distant. Voici le but qu'ils poursuivent, lutte en sans siffler de mi-temps, pour ce qui est de chasser le roi. Hélas, personne n'est hésitant. Même les types candidats au soutien, quand il y a tout plein de micros tendus qui se souvient de ses promesses une fois que le jour vient, sont pas les exemples qui manquent de politiciens qui mentent, qui vendent les foules bien vite se vantent et qui ensuite ne foutent rien. À l'île Saint-Denis, la secrétaire G de pleine commune butée 20, appeler les flics pour faire virer les Roms du terrain, sans daigner discuter un, disposer jour du terrain. Si j'osais m'exprimer ainsi, si comme elle, je ne doutais de rien. Les flics sont venus, ont dû remballer, s'en aller, sans adresse et sans savoir où reste l'hiver, ils vont le passer. Si tu passais ton temps à te voir casser malgré ce que ça te coûte, tu serais en droit de penser que d'autres se mettent en travers de ta route. Et de finir rusé de les voir ruser pour t'abuser et s'amuser à t'accuser les excuses. Qu'est-ce que tu veux que ça te foute? Encore qu'il soit peu à en user, comme y'a peu de feu sans fumée, de voyage aux cieux sans fusée, y'a peu ou pas de doute. On accuse les Roms pas de tenir en place, mais on les chasse, les prive de maison et on refuse d'inscrire leurs gosses dans des classes. Je crains hélas pour ce qui est des lendemains faits de pauvres Roms, que bien des traces ainsi que tous les chemins mènent aux Roms.
Ras-le-bol, le maire de Colombie-Saunier qui menace aujourd'hui de démissionner suite à l'arrivée dans son village d'une grosse communauté de gens du voyage.
Il y a un énorme problème avec les Roms aujourd'hui.
Vous avez dit dans une interview à La Voix du Nord jeudi, parlant des Roms, ils devraient s'abstenir d'avoir 8 enfants.
Quand on a une pièce, on ne fait pas 8 enfants.
Ces gens vivent d'escroquerie et de rapine. Ce sont des gens qui roulent dans des voitures de luxe, qui ont des caravanes énormes et qui ne travaillent pas. Donc on peut s'interroger sur les revenus de ces gens-là.
Comment se fait-il que dans certains campements illégaux, où tout le monde vit avec le RMI, on ait des voitures que ne pourra pas se payer? un homme ou une femme qui travaille dur. Eh bien, nous avons prévu qu'on pourra saisir ces voitures.
Les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie.
Oui, mais histoire renvoyer en Roumanie avec 300 euros, je ne vois pas ce qu'il y a là d'humain.
On a un afflux massif de la pire racaille que l'humanité ait portée, qui sont les Roms de l'Est, là, des Albano-Roumano, etc., qui sont les spécialistes de la traite humaine, de la mutilation d'enfants, etc. Et qu'on a ça qui déferle partout. Il y en a même à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, hein, qui mendient dans la rue, qui viennent là pour spolier, hein, qui viennent là pour parasiter, et qui agacent là où ils sont, qui agacent finalement les immigrés un peu plus légitimes issus de notre ancien empire colonial.
Polémique en France après les propos du député maire de Cholet, Gilles Bourdoulex. Après l'installation illégale sur sa commune dimanche de 150 caravanes de tziganes, il a affirmé, selon la presse locale, qu'Hitler n'en avait peut-être pas tué assez.
Hitler, il n'en a peut-être pas tué assez.